Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 11e épisode de la saison 6 de Vue du banc. On débrief ce soir et aujourd'hui dans la journée, pour ceux qui l'écoutent une fois la nuit passée, les dernières rencontres de Ligue des Champions et notamment les matchs des équipes françaises de Lyon, de Lille, du PSG. Mais on parlera aussi du Bayern, de l'Atalanta, de l'Inter, de City, du Barça, de plein d'équipes avec les deux toliers habituels. D'abord, Christophe Cuchely. Salut Christophe.
Salut Raphaël Cosmidis.
Merci beaucoup pour cet appel sonnel. Christophe qui écrit pour Le Monde, qui écrit pour la FP, qui écrit pour La Voix du Nord, qui était avec nous à Bordeaux dernièrement pour fêter l'anniversaire de Florent. Salut Florent.
Salut.
Florent Tonici qui bosse dans l'ombre auprès de certains joueurs et puis qui publie de temps en temps des vidéos de foot, dont celle qu'on fait pour la fac des patrons et pour les patrons sur patreon.com. Vous pouvez vous abonner pour avoir des contenus supplémentaires de Vue du banc. Passons tout de suite, messieurs, au match de Ligue des Champions. Silence l'oiseau. Au match de Ligue des Champions, on va commencer par Lyon, Florent, que tu as vu, que j'ai vu aussi un peu. La victoire de Lyon contre Benfica 3-1, avec un système qu'on avait évoqué il y a un ou deux mois de ça, quand on parlait du Lyon de Sivigno, c'est le 4-2 ou à peu près. C'est ce que Rudy Garcia a reconduit pour ce match contre Benfica, victoire 3-1 au bout, contre une petite équipe de Benfica, qui avait déjà été faible à l'aller, qui avait été bien payée, et qui là a fait face à la réalité. Lyon n'a pas été flamboyant, mais il y a quand même un peu de regain de forme du côté lyonnais. Florent, que penser de cette performance?
Oui, un peu de mieux. Ils ont quand même bien eu la chance de rentrer avec un but très vite dans ce match qui les a mis dans une position idéale, avec ce but très rapide d'Andersen au bout de 2 minutes de jeu. Et ensuite, ils ont quand même plutôt pas mal géré. Même si en deuxième mi-temps, Benfica est revenu à 2-1 et a été un peu plus dangereux, globalement, c'est notamment en première période, c'est un match plutôt bien géré, un match, tu l'as dit quand même, face à un adversaire très faible et un match globalement aussi loin d'être de très haut niveau. Mais tu as des performances individuelles, Thiago Mendes au milieu qui fait peut-être son premier gros match avec l'OL et surtout Oussem Aouar côté gauche. Qui a vraiment dominé son vis-à-vis Tavares avec le second but de l'OL pour le symboliser. Et donc avec ses perfs individuels, voilà, l'OL a pris le dessus. Je ne suis pas sûr, là encore, que l'équipe puisse vraiment s'appuyer sur ça pour aller gagner, pour enchaîner derrière, parce que tu rencontreras peut-être pas une équipe aussi faible en face. Et c'est quand même étonnant de parler de Benfica en disant ça, parce que généralement, c'était quand même une équipe qui posait toujours des problèmes. Là
ça
vraiment
fait quelques années, là, quand même, qu'ils sont fois pas bien.
Ça fait quelques années, oui, mais ça reste quand même, en Ligue des Champions, tu t'attends à mieux en face. Mais bon, on avait déjà un peu dit ça du Zénith, c'est-à-dire l'OL sort vainqueur de ce match. Il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire, mais est-ce que ça veut vraiment dire que ça va beaucoup mieux? Je sais pas trop. Après, la performance de Aouar, s'il commence à les reproduire, là, c'est sûr que tu vas gagner en qualité, mais collectivement, tu as une équipe solide, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, mis à part les exploits individuels de Aouar sur son côté gauche, qui n'a pas encore le pendant à droite avec Reine Adélaïde, qui est un peu en dedans, j'ai trouvé. Mais bon, déjà, si lui va mieux, l'OL va mieux, tout simplement.
Ouais, un petit rappel sur la compo, donc c'était Lopez dans les buts, qui aurait pu manquer la rencontre sur blessure, mais finalement, il a pu jouer à la dernière minute. Koné, Denayer, Andersen, Dubois derrière, Touzard, Mendes associé au milieu, comme tu l'imaginais, Florent, après leur performance positive ensemble, sur une fin de match, je crois, où ils passent en 4-4-2. Aouar, Reine Adélaïde sur les couloirs, mais pas vraiment dans les couloirs, on pourra développer un peu. Et puis Depay et Dembélé devant, et la mauvaise nouvelle par contre pour l'OL, Florent, c'est la blessure de Memphis Depay en cours de match, qui risque d'être absent plusieurs semaines. Et donc ça rejoint une question de... Je vais la retrouver, une question de King Louis sur Twitter, qui nous demande si la deuxième mi-temps difficile de l'OL montre que l'organisation actuelle n'est pas viable sans Memphis. Quel rôle il a dans cette équipe qui désormais a un système un peu inspiré du Leipzig il y a quelques années, avec deux excentrés qui n'en sont pas vraiment. Quelle place il a, quel rôle il a, et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'effectif qui peut le tenir un peu?
Après, c'est un peu mouvant comme système, parce que je voyais sur des situations de relance parfois, le système reprendre la forme du milieu à 3 avec un Depay qui redescendait quand même assez bas, ou alors qui pouvait échanger de position un petit peu à loisir avec Aouar. Donc il y avait pas mal de liberté au gré de ces deux individualités notamment. Après, c'est vrai que son absence. Enfin, t'as l'impression que le 4-4-2 a été fait pour le remettre dans l'axe, justement, aux côtés de Dembélé. Et du coup, ça va reposer une question, c'est est-ce que tu restes dans ce 4-4-2 même s'il n'est pas là? Et dans ce cas, faut peut-être trouver quelqu'un d'autre associé à Dembélé. Et dans ce cas-là, est-ce que tu mets Aouar en 10, où il pourrait tout à fait briller? Ou est-ce que tu vas associer un profil plus offensif, en imaginant par contre que ce profil-là ne soit pas capable de décrocher comme le fait Depay ou de se rendre disponible entre les lignes comme le fait Depay. Je pense par exemple à Terrier ou à voire à Cornet, même si Cornet est beaucoup plus un joueur de côté qu'un joueur d'axe. Donc ça va quand même poser des questions sur, sur les profils à associer, la relation avec Dembélé, et surtout la capacité ou non à redescendre au milieu, parce qu'on sait que avec Touzard et même un peu avec Mendes jusque-là, pour remonter les ballons, c'est pas forcément facile. Depay a porté un petit peu à ce niveau, les changements de zone d'Aouar aussi, mais le fait de perdre Depay, ça t'enlève quand même un joueur pour aller dans cette zone.
Comment t'expliques les difficultés de Ryan Delaïde dont tu parlais? Est-ce que c'est un changement de zone par rapport au poste de relayeur qu'il a connu à Angers et à ses débuts à Lyon? Est-ce que c'est des associations différentes? Est-ce que c'est juste une performance où il aurait pu être aussi bon mais ça s'est pas passé comme ça? Pourquoi cette performance un peu négative alors que souvent c'était lui qui sortait du lot sur les dernières?
Déjà, t'as la perf d'Aouar à côté qui est difficile à enfin, c'est difficile de rivaliser. Ensuite, bon, je pense que le retour sur un côté lui sied pas forcément pour l'instant. Après, voilà, j'ai parlé de perf un peu en dedans. Il est quand même parmi les joueurs les plus actifs pour mettre la balle dans le dernier tiers. Il est quatrième lyonnais derrière Aouar, Mendes et Koné. En termes de dribble tenté, il en a tenté quelques-uns, mais ouais, il était peut-être un peu en dedans parce que retour sur un côté et que je pense que le joueur espérait vraiment avoir une chance en relayeur. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de l'absence de Depay. C'est peut-être Reine Adélaïde qui va être installé derrière Dembélé et qui est dans cette situation-là. En 10, il pourrait retrouver les situations. Il faisait énormément de différence en 8 en prenant la balle, en se rendant disponible entre les lignes. C'est un petit peu la même chose qui lui serait demandée. Et il pourrait faire le même genre de différence qu'il avait fait notamment face au Zénith lors de son premier match de Ligue des Champions à l'OL, où il avait été un des joueurs les plus en vue. Donc, à voir la suite, je pense quand même que c'était juste un match comme ça où il était un peu en dedans. Et c'est difficile de lui en vouloir, puisque jusque-là, quand même, comme tu le disais, c'était un des joueurs qui réussissait à sortir du lot alors que ça allait un peu moins bien collectivement, voire même beaucoup moins bien.
En tout cas, victoire importante pour Lyon qui prend 3 points, 4 points d'avance même sur Benfica, 3 points sur les Zénith en attendant le match retour, parce que Leipzig a battu le Zénith de son côté. Tu les vois se qualifier, Flo, sur les deux dernières rencontres. On rappelle leur rencontre. Ils vont d'abord à Saint-Pétersbourg et puis ils terminent à domicile contre l'équipe de Nagelsmann.
Je pense que ça devrait le faire. Si tu ramènes un nul de là-bas, de Saint-Pétersbourg, je pense que ça devrait le faire. Ils ont 2 ou 3 points d'avance sur
Ils
le
ont 3
Zénith.
points, ouais, d'avance, 3 points.
Donc si tu ramènes un nul là-bas en marquant, puisque au match aller ça avait fait un partout, il me semble,
Ouais.
Je pense que tu passeras en gardant ces 3 points d'avance. Ça t'évite une mauvaise surprise à la fin. Après, oui, bon, s'il y a la défaite là-bas, là tu joueras le dernier match avec un petit peu la peur au ventre. Mais je pense qu'aujourd'hui, en retrouvant une certaine solidité derrière, ils sont capables d'aller chercher un point au Zénith, sauf si Malcolm est remis de blessure. Là, je ne sais pas ce qui peut se passer.
On sent bien le bordelais. Christophe, à ton tour de faire un petit monologue ou un petit dialogue avec moi sur un match, c'est celui de Lille qui a perdu à Valence 4 buts à 1. Alors pour les gens qui n'ont pas vu le match, ça peut paraître un peu sévère puisque Lille avait très bien démarré, notamment avec l'ouverture du score de Osimhen. Pourquoi ça a basculé? Pourquoi ça s'est renversé comme ça? Et est-ce que Lille est, à la différence des années précédentes où ils étaient en Ligue des Champions, où ils étaient un peu ridicules, est-ce que Lille est très mal payé cette saison par rapport à ses performances européennes?
Mal payé, ouais. Après, Lille est mal payé, mais pas par le sort. C'est-à-dire que tu prends pas que des frappes de 40 mètres déviées par un coup de vent ou des joueurs qui sont pile poil en chaleur juste quand tu es là et toi qui serais totalement irréprochable. Clairement, Lille est pas irréprochable. Simplement, bon, en fait, tu as vraiment l'exemple typique du niveau Ligue des Champions. C'est un peu l'inverse de Lyon, j'ai l'impression, sans vouloir retirer quoi que ce soit à Lyon, mais notamment sur les matchs contre les équipes de Nagelsmann, à la fois Leipzig cette saison et Hoffenheim les saisons dernières, tu avais l'impression qu'en fait, on te dressait le portrait d'un adversaire qui était vraiment très intéressant dans son championnat, et puis finalement, tu l'affrontais et tu avais des erreurs défensives assez inexplicables, etc. Et du coup, tu te disais, bon, bah, on s'en sort bien, même sans avoir forcément été incroyable. Bon, bah, à l'expérience, au réalisme, t'appelles ça comme tu veux, t'arrivais à choper des résultats plutôt positifs, voire carrément positifs sur des victoires. La Lille, c'est l'inverse absolu. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu peux dire, à savoir, bon, telle erreur en Ligue des Champions, ça pardonne pas. C'est-à-dire que Lille, globalement, sur le ratio occasion concédée, occasion créée, on va dire que si tu prends tous les matchs, je pense que c'est plus ou moins équilibré. Alors, à divers degrés, hein, sur ce match-là, Valence en a plus, mais sur l'aller, t'en as beaucoup plus. Face à l'Ajax, t'en as à peu près autant, et face à Chelsea, au premier match, t'es en dessous, mais c'est pas non plus scandaleux. Mais tu termines avec un point. Enfin, tu as un point, tu l'as pas encore terminé, mais tu es à 99% dehors de toute compétition européenne et à 100% éliminé de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que quand l'adversaire a un temps fort, bah, l'adversaire marque des buts. Là, c'est en plus d'autant plus valable que le temps fort de fin de match, il est ramassé dans le temps et qu'il y a trois buts entre la 82e et la 90e qui font passer le score de 1 partout à 4-1. Alors après, il avait absolument besoin de gagner pour encore y croire. Donc du coup, Galtier fait des changements assez offensifs. Finalement, faire 1-1 ou perdre 4-1, c'est pas non plus une différence incroyable, même si de tenir le nul, ça t'aurait encore permis d'espérer dépasser Valence pour la troisième place. Mais pour moi, c'est surtout ça. Alors Lille est pas, comme je disais, et pas exempt de tout reproche, notamment sur l'aspect défensif, où on voit les limites de certains match après match, et globalement des limites collectives. Mais le 1 point, il reflète qu'en partie le fait que Lille soit capable de faire à chaque match entre 30 et 45, voire même une bonne heure, si tu prends le match aller face à Valence, de niveau Ligue des Champions. Simplement, tu as toujours soit 5-10 minutes par-ci par-là, généralement les entames, et sur ce match-là, toute la deuxième période où tu souffres, et quand l'adversaire accélère, bah, tu es incapable de tenir sans prendre de but.
Est-ce que c'est ce match et d'ailleurs cette campagne européenne confirme la dimension hyper prometteuse de Osimhen, qui la marque encore un but, qui quand il est sur le terrain transforme Lille et quand il n'y est plus, tu vois une équipe complètement différente. Je crois d'ailleurs que quand il a eu sa période un peu de blessure, ça a été très difficile pour le LOSC. Tu lui mets quel plafond à ce joueur?
C'est vraiment difficile à dire dans le sens où il a quelque chose que je trouve excellent pour le très haut niveau. Parce que là, on peut considérer que Lille, c'est plutôt du haut niveau. À partir du moment où tu es engagé en Ligue des Champions, le très haut niveau, ça va être de jouer, je sais pas, dans les équipes type Dortmund. Et ensuite, le très très haut niveau, c'est d'aller taper Barcelone, Liverpool. C'est qu'il a un volume de jeu, un volume de course qui est assez incroyable. Et du coup, tu as vu la différence, là, tu parlais de son absence sur blessure face à Marseille. Si c'est Rémy qui va au pressing, c'est tout de suite plus compliqué. Là, t'as pas du tout la même première ligne. Là, tout seul, il peut faire le boulot de deux personnes et orienter les passes pour qu'ensuite ça aille dans des zones un peu plus difficiles à jouer pour l'adversaire et ensuite que tout le bloc vienne presser. Et tout seul, il te fait un boulot énorme sur la première ligne et tout ça. Ça te permet de tirer le collectif vers le haut, même si lui n'en profitera pas forcément. Donc déjà ça, à la fois sur sa vitesse de déplacement, mais aussi sa volonté de répéter les efforts et de bien le faire. C'est-à-dire qu'il court pas forcément dans le vide, il arrive quand même à bien orienter les relances adverses. Donc ça, c'est un très bon point. Il a quand même plutôt une bonne finition. Globalement, une assez bonne lucidité, même s'il gâche des choses, notamment dans les duels aériens. Là, il marque un but sur un face-à-face. Il a quand même un taux de conversion qui est assez intéressant. Maintenant, là où il y a encore des progrès à faire, et c'est là où vraiment ça va dépendre. Enfin, c'est ça qui va conditionner son évolution au niveau supérieur. C'est le fait de s'insérer dans un projet collectif et de toujours faire les bons choix. C'est-à-dire qu'encore maintenant, il peut avoir le truc où bah s'il a que 5 balles en zone dangereuse au lieu de 15, bah il va en jouer 3 ou 4 tout seul. Alors là, encore sur ce match-là, il fait une passe qui n'est pas décisive parce que Yazici rate sa frappe, mais il fait une passe qui est vraiment très intéressante, bien vu. Donc on peut pas dire qu'il ait des œillères, qu'il soit totalement incapable de comprendre ce qui se passe autour de lui. Pas comme Mamba par exemple, qui a beaucoup de mal à intégrer la dimension collective. Il arrive vraiment à lever la tête, mais il peut encore avoir tendance à jouer quelques coups tout seul s'il n'a pas eu le ballon en zone intéressante pendant 20 minutes. Donc c'est là-dessus qu'il doit progresser. Alors après, tu peux progresser surtout, mais disons tout ce qui est taux de conversion, etc. C'est pas forcément facile à juger sur un échantillon aussi faible. Malgré tout, il a clairement montré qu'il était capable de se hisser au niveau, notamment dans l'intensité. C'est quand même quelque chose de très recherché dans le foot actuel. C'est pas un grand dribbleur. Après, en tant que numéro 9, est-ce que c'est forcément ce qu'on attend de lui? Je sais pas. Mais toujours est-il que là, je l'imagine tout à fait capable. Je veux dire, la saison prochaine, alors sans forcément atteindre son niveau, mais tu me dis, tu remplaces Kane par Osimhen dans une équipe de Tottenham qui presse. Je pense pas qu'il ferait tâche dans une équipe comme ça de ce niveau-là, si jamais il maintenait son niveau actuel.
Bon, un petit mot sur ce groupe H dont on avait pas mal parlé au moment du tirage parce que ça semblait très homogène et d'ailleurs c'est confirmé par le classement puisque l'Ajax, Chelsea et Valence sont tous les trois à 7 points et malheureusement Lille est un peu l'idiot de l'histoire avec un seul point en 4 matchs et malgré ses performances intéressantes. Toi qui as vu pas mal de rencontres de ce groupe, Christophe, comment t'expliques que l'Ajax qui semble énorme et encore d'ailleurs très fort malgré les départs de Jong et de Ligt et Valence qui a perdu son entraîneur, qui derrière est remplacé par Celades, qui est presque plus un pion qu'un mec vraiment venu pour changer quoi que ce soit tactiquement, soit au même niveau. Est-ce que c'est vraiment des matchs qui ont bien tourné? Est-ce que c'est le calendrier, le fait que Valence ait joué deux fois Lille et s'en sort deux fois très bien? Et qui d'ailleurs va continuer dans ce groupe maintenant que Lille ne joue plus rien?
Bah, j'ai tendance à penser que la plupart des résultats mentent et reflètent pas forcément le rapport de force sur les journées. C'est assez difficile. Il y a quand même des grosses variations de niveau. Pour moi, l'équipe la plus régulière, c'est l'Ajax, qui a pas vraiment eu de trou, qui a pas forcément toujours atteint des sommets de jeu. Je pense qu'on peut quand même être, alors pas déçu, parce que vu le turnover qu'il y a eu en cours de, enfin, à l'intersaison, c'était difficile d'imaginer que l'Ajax puisse retrouver le même niveau que l'an dernier, avec notamment le départ de Jong, de Ligt. Mais l'Ajax, ça c'était toujours du 7,5 sur 10, on va dire. Des fois ça montait à 8, des fois ça redescendait à 6,5. Mais je veux dire, par exemple, j'ai pas été spécialement convaincu par l'Ajax face à Valence, et ça gagne 3-0. À l'inverse, Valence était meilleur pour moi sur cette défaite-là que face à Chelsea à l'aller. Valence gagne contre Chelsea. Donc c'est vraiment assez difficile. T'as des gros écarts de niveau, même individuellement. Alors après, parfois ça s'explique, mais là par exemple, Valence est transformé en deuxième période, enfin ouais, surtout en deuxième période. Après, il rentre à la 30e, mais c'est en deuxième qui fait le plus gros carnage par Ferran Torres côté droit. Ferran Torres, on peut pas dire non plus que ça soit le joueur le plus fort de ce groupe-là, de ce groupe H. Simplement, face à des latéraux lillois sur ce match-là qui était un peu à la rue, les côtés étaient vraiment très très importants. Mais c'est vraiment difficile. À chaque fois, c'est l'histoire d'un match. Je peux pas dire quel est le vrai niveau de Valence, parce qu'entre l'aller et le retour, il y a une énorme variation. Lille aussi, mais Lille, c'est plus compréhensible parce que Lille est peut-être pas forcément, enfin pas à sa place, mais n'a pas le même niveau et le même, à la fois individuel et le même vécu collectif. Donc du coup, c'est beaucoup plus logique qu'une équipe qui est encore en train de se chercher puisse avoir des écarts de niveau. D'ailleurs, ça se voit en championnat. Mais même Chelsea, c'est encore très jeune. T'as pas forcément des acquis de jeu. Donc c'est assez difficile à lire. Je pense que ça se jouera. Tu peux même pas à la fois cibler un match et cibler un secteur de jeu où vraiment ça va se régler, parce que même sur les différents matchs que je vois, par héros, et à chaque fois il va te rapporter un but et il risque d'en tout coûter un, parce que sur les 50 passes sous pression qu'il va faire, il y en aura 49 qui seront très bonnes et dont une qui va amener un but, et puis il y en a une qui sera ratée qui va en coûter un. Donc c'est vraiment l'histoire d'une ou deux actions à chaque fois sur les différents matchs. J'ai tendance à penser quand même que Valence est un petit peu moins bien équipé, même si le retour de Rodrigo là sur ce match-là, ça fait une variable intéressante. Mais le manque de réalisme de l'Ajax face à Chelsea sur les deux matchs, à savoir que je pense qu'ils peuvent gagner les deux, au moins le deuxième, et que tu gaspilles un avantage de 3 buts et tu prends 2 rouges, ça fait quand même un peu scénario bad beat, où cette équipe-là avait tout pour être qualifiée au bout de 3 journées, 4 maximum, et finalement elle se retrouve à égalité avec deux autres qui sont un peu plus faibles. Donc attention sur la dynamique, justement, pas que l'Ajax ait pas eu sa meilleure période et ensuite paye une période un peu moins bonne par la suite.
Ouais, un petit point sur les matchs à venir dans ce groupe. Valence contre Chelsea, Lille contre l'Ajax. Et lors de la dernière journée, pardon, Chelsea recevra Lille et l'Ajax recevra Valence. Passons au PSG qui a battu Bruges assez difficilement, Florent. Un match qui semblait pas très intéressant au départ, vu ce qui s'était passé au match aller et aux difficultés qu'avait créé Mbappé pour le club de Bruges. Mais on a revu un Bruges à nouveau intéressant, notamment sur une fin de match où ils ont réussi à mettre sous pression Paris, ils ont même réussi à obtenir un penalty. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre où le PSG maintenant a 12 points en 4 matchs? Mais fait son ça ressemblait un peu à la victoire contre Galatasaray finalement.
Ouais, c'était pas très convaincant dans le jeu côté parisien. On était loin de l'intensité proposée face au Real Madrid et même en championnat sur certains matchs comme à Bordeaux ou face à
À
l'OM
Marseille récemment,
aussi,
ouais.
voilà. Déjà là, ça posait des problèmes, mais c'est vrai que au final le point intéressant sur ce match, c'est pas ce qu'a fait Paris, c'est ce qu'a fait Bruges, qui par rapport au match aller a eu une approche un petit peu moins ambitieuse au niveau du pressing, vu que ce n'était plus une ligne de 3 qui était en couverture, mais une ligne de 4 et un 4-4-2 qui était formé, qui tenait une ligne assez haute quand même. Mais vu que Paris ne bougeait pas vraiment beaucoup sur le terrain, il y avait assez peu d'appels en profondeur, malgré la présence de Mbappé ou de Di Maria. Et même entre les lignes, ça se déplaçait assez doucement. Du coup, les joueurs belges étaient quand même capables de gérer ça sans trop de difficultés. Et du coup, ensuite, leur plan de jeu était quand même intéressant. Un plan de jeu qui penchait à droite à la finition. L'objectif, c'était vraiment de créer des situations de rencontre entre Denis et Bernat, notamment en s'appuyant pardon, parfois sur le jeu au pied de Diatta, qui jouait côté gauche et qui était capable de renverser, de faire des transversales vers Denis à droite pour ensuite d'un contre un. Après, le problème, c'était les limites individuelles dans les choix des attaquants de Bruges. Qui sont un peu comparables aux limites des joueurs du Slavia la saison, enfin la saison, les joueurs du Slavia face au Barça dont on parlera tout à l'heure, qui avaient beaucoup de transitions à jouer en égalité numérique, voire en supériorité numérique, et qui n'arrivaient pas à bien les jouer. Il manquait parfois de qualité individuelle et parfois tout simplement de bonnes prises de décision. Là, c'était un peu la même chose. Une fois qu'ils arrivaient à droite, c'était des situations assez idéales. Mais ça n'arrivait pas à conclure en fait par une dernière passe ou par un dribble réussi ou voilà, ça finissait rarement en occasion dangereuse. Donc Paris a pu gérer ça tranquillement. Ils ont marqué sur un des rares ballons où ça trouve Di Maria entre les lignes et ensuite ça fait une différence. Mais voilà, globalement c'est surtout la perf de Bruges en effet qui est à noter, comme la perf du Slavia était à noter. Comme je disais, face au Barça, où la perf du Locomotive était annotée tout à l'heure face à la Juve.
Ouais, mais il y a une question d'ailleurs de Vincent Ferrer sur Twitter qui nous demande qu'est-ce que Bruges a mieux fait que bon nombre des adversaires du PSG sur cette saison? Alors, tu as parlé du système changé par rapport au match aller. Est-ce qu'il demande si c'est le pressing à la perte, si c'est le bloc haut, si c'est une couverture à deux sur Mbappé? C'est aussi ce qu'ils font avec le ballon qui est peut-être un peu plus ambitieux que les adversaires habituels du PSG parce qu'ils essayent de ressortir au sol. Il y a pas mal de séquences où ils arrivent à construire notamment sur les côtés avec des joueurs qui sont à la fois très rapides comme Diatta et Denis mais qui sont aussi capables de combiner avec leurs partenaires. J'ai l'impression qu'ils prennent le match un peu comme si ils étaient à d'égal à égal et ça se voit sur certaines séquences même si ça leur coûte aussi ou parfois sur des transitions dès que ça part avec Mbappé Di Maria il y a des séquences comme ça où ça joue à une touche de balle pour Paris et des frappes à 22 mètres de Di Maria sont des frappes très dangereuses aussi.
Bah, je pense que d'un côté, leur plan de jeu défensif aurait pu être exposé par un Paris à grande vitesse. Après, leur plan de jeu offensif, ils ont en effet profité, je pense, d'un PSG qui a mis moins d'intensité, comme je le disais tout à l'heure, dans ce match-là.
Ouais. Et
Parce que
très peu de
l'enjeu.
pressing à la perte, hein.
Voilà.
Les trois de devant ont quasiment pas pressé du tout.
Et même assez peu de pressing suivi. Et puis, une fois que le
Ouais.
bloc, en plus, était. Que Bruges sortait de la pression, enfin de la semi-pression. Notamment avec les transversales que j'évoquais tout à l'heure, de la gauche vers la droite. Le repli pour aller aider Bernat, c'était quand même assez long. Donc voilà, après, ce qu'ils ont bien fait, c'est vrai que dans l'exécution, en fait, surtout, l'exécution était bonne. Et c'est vrai que Paris en Ligue 1, il y a des adversaires qui parfois ont des plans, mais qui se heurtent au problème d'exécution, parce que réussir ce genre de transversale, c'est pas forcément donné à n'importe quelle équipe. Même si on devrait imaginer que n'importe quel joueur devrait être capable de faire une transversale de 40 mètres. En Ligue 1, je pense pas que ce soit la vérité. Et du coup, je pense aussi que c'est pour ça. Là, du côté de Bruges, il n'y avait pas un seul joueur qui était capable de faire ça. Il y en avait deux, trois sur le terrain. Van Aken aussi en a fait quelques-unes. Je parlais de Diatta tout à l'heure. Et à partir du moment où tu as voilà, deux, trois, quatre joueurs qui sont capables de faire ce genre de choses sur un terrain, bah, c'est plus facile de développer un plan de jeu précis face à un adversaire comme le PSG, qui, même s'il est au ralenti, laisse quand même peu de place aux errements techniques et aux approximations si tu veux vraiment les mettre en difficulté. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que Bruges a aussi eu du mal à se créer de vraies grosses occasions au-delà du penalty, parce que près de la surface, il y avait quand même beaucoup de Parisiens et surtout une défense, certes à 7 joueurs, mais qui laissait peu de place à l'improvisation et aux approximations.
Victoire 1-0 du PSG sur un but d'Icardi. Dans l'autre match du groupe, Galatasaray a complètement explosé. Ils ont perdu 6-0 contre le Real Madrid avec notamment un triplé de Rodrigo. Il y avait quelqu'un sur, je ne sais pas si tu as vu les 3 buts de Christophe, mais tu l'as vu aussi en championnat d'Espagne. Il y avait quelqu'un qui nous demandait sur Twitter ce qu'on pensait de Rodrigo, de sa performance et de ce qu'il donnait en ce moment de son potentiel. C'est quel profil de joueur? Ça donne quoi? C'est qu'on en parlait un peu sur Facebook en préparant l'émission où tu disais que par exemple c'était bien en avance sur Vinicius, fais-nous un peu le portrait rapide de ce joueur.
Bah écoute, un portrait détaillé, j'aurais besoin de le voir encore un peu plus parce que là il a fait que quelques apparitions et je ne les ai pas forcément toutes vues. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que ouais, comme tu disais, à son âge, il est bien plus avancé que Vinicius, qui reste quand même le stéréotype de l'espèce d'ailier de débordement, qui est très explosif, très tonique, qui va pousser la balle, qui va être capable sans forcément avoir un énorme bagage de dribble, mais simplement sur sa capacité à te mettre le doute pendant un quart de seconde sur une feinte et ensuite à être plus rapide que toi sur les premiers mètres, bah du coup à passer relativement facilement le défenseur en un contre un, mais qui a une technique de frappe très très mauvaise, je pense du niveau voire pire que celle de Dembélé, et ça se voit dans son faible taux, nombre de buts. Je crois que là Rodrigo a plus ou moins dû le rattraper. Il me semble que Rodrigo est revenu à égalité alors que Vinicius était déjà là l'an dernier, même s'il a été blessé. Donc ça dit quand même quelque chose. Vinicius se procure beaucoup d'occasions et en rate énormément. Alors il est encore très jeune, mais Rodrigo montre déjà une forme de lucidité, de technique de frappe. C'est-à-dire qu'il arrive en zone dangereuse et il est pas capable de marquer les buts. Et c'est quand même quelque chose d'important parce que le Real n'a plus de Cristiano Ronaldo et du coup tu peux plus forcément te contenter de créer des décalages. Et ensuite, j'allais dire en plus, ensuite centré, mais en Vinicius, c'est même pas forcément le plus grand centreur de la Terre, à la fois dans le volume de centre qu'il fait, parce qu'il peut avoir tendance à jouer le truc un peu seul, et même quand il l'est fait, pareil, sa technique de passe est correcte, mais elle est pas incroyable non plus. Donc, rien que le fait que Rodrigo soit capable de beaucoup plus rentabiliser ses incursions dans la zone dangereuse en fait quelqu'un de très intéressant. Après, si tu veux, je pourrais te faire une espèce de début de profil, mais je pense que c'est encore très tôt parce que je l'ai pas vu au Brésil, donc du coup l'échantillon est relativement restreint. Pour l'instant, il réussit, je vais dire tout ce qu'il fait, mais il réussit énormément de choses. On se souvient de son premier but où c'est ses premiers pas au Real, il enchaîne le contrôle, il se met dans le sens du jeu et puis il met une frappe enroulée quelques minutes seulement après ses premières minutes, soit au bout de 4-5 minutes sur son premier match avec le Real, sa première titularisation. Là, pareil, il met un doublé sur le tout début de match, il termine par un triplé, ce qui fait un trick parfait, pied droit, pied gauche, but de la tête, ce qui quand même très peu été fait. Messi, alors voilà, c'est pas forcément ce qui fait tout le bagage d'un joueur, mais Messi l'a jamais fait en carrière, Ronaldo l'a jamais fait en Ligue des Champions, alors que c'est un excellent joueur de tête. Donc du coup, rien que ça montre quand même une certaine polyvalence dans ta capacité à finir. Et sachant, alors même si c'est pas forcément le principal problème du Real, la finition, qu'il peut y avoir aussi un problème à la fois dans la création et dans la défense, de pouvoir ajouter ça. Je pense que là, ça veut. Enfin, moi, là, comme ça, j'imagine Vinicius prêté en janvier dans un club milieu ou au tableau de Liga. Mais en tout cas, si Vinicius progresse pas nettement, ça va être très difficile parce que là, Rodrigo, un match moyen, on va dire, un match classique, c'est quasiment le top niveau de ce que peut faire un Vinicius dans la production vraiment qualitative et pas juste dans le fait de dribbler un joueur pour ensuite en faire un peu n'importe quoi.
Passons au gros morceau de la semaine, c'est le match entre le Borussia Dortmund et l'Inter, qui avait très bien démarré pour l'Inter, qui menait 2-0 à la mi-temps, avec des buts de Lautaro et de Vecino. C'est notamment le but de Vecino sur une très belle action construite depuis l'arrière, comme souvent sur ce début de saison avec l'Inter, et puis retour en fanfare de Dortmund en deuxième période, avec but d'Hakimi, but de Brandt, et un nouveau but d'Hakimi en fin de match pour la victoire 3-2 du Borussia Dortmund. Et la victoire qui va peut-être faire basculer du coup les marsupiaux du bon côté dans ce groupe-là qui est dominé jusque-là par le Barça. Florent, toi qui as vu ce match, d'ailleurs comme Christophe, c'est le seul match que deux d'entre nous ont vu. Comment t'expliques que ça ait basculé? Et est-ce que finalement ça a basculé ou est-ce que c'est juste que le Borussia Dortmund n'avait pas réussi à concrétiser ce qu'il arrivait bien à faire en première période?
Ouais, c'est plus la deuxième option, parce que dès la première mi-temps, on voit une équipe de Dortmund qui réussit à sortir du pressing de l'Inter, et surtout un Inter qui a été efficace sur ses incursions. Je pense que les deux occasions vont au fond. J'ai pas souvenir, Christophe, d'une vraie grosse occasion de l'Inter en première mi-temps, à part celle-là.
Ouais, il y a des situations, mais il y a rien d'incroyable.
Voilà, c'est ça. Et alors que côté Dortmund, ils ont des situations dans la surface. Il y a Sancho qui trouve la barre, il me semble. Si c'est pas le gardien, si c'est pas Handanovic. Non, dès la première mi-temps, le rapport de force était quand même beaucoup plus équilibré, au minimum équilibré que ce que le score laissait penser. Et après la pause, il y a vraiment une équipe de Dortmund qui a pris l'ascendant dans le jeu, un Inter qui a eu de plus en plus de mal à sortir parce qu'ils ont aussi eu de plus en plus de mal à trouver Lautaro et Lukaku. Et puis finalement, ça s'est renversé parce qu'ils ont trouvé de l'efficacité et ils ont vraiment continué à faire mal sur les côtés. Les incursions d'Hakimi faisaient vraiment beaucoup de mal côté droit notamment. Et puis bon voilà, ils ont fini par mettre le premier but. Ils ont quand même profité d'une belle erreur de Brozovic qui se fait surprendre par Alcacer pour le 2-2. Et je pense qu'à partir du moment où le 2-2 était atteint, je pense qu'il y a eu aussi un petit déblocage, une petite euphorie qui nous a amené au 3-2, parce qu'il y a quand même eu quelques occasions avant le deuxième but d'Achraf Hakimi.
Ouais, je suis en train de regarder les stats de tir qui sont assez parlantes. C'est 21 tirs à 9 pour Dortmund, 61 pardon, % de possession à 39, 6 corners à 1. Donc ça montre bien que Dortmund a dominé à la fois le ballon et le terrain et surtout un énorme temps fort qui a l'air de durer assez longtemps. Je regarde ça, Christophe, entre finalement la mi-temps et la 75e où ils sont à 6 ou 7 tirs. Dont bah, les buts de Hakimi et de Brandt, et puis
Et
finalement ce troisième d'Hakimi qui à la fin un peu du temps fort. C'est comment expliquer cette période terrible de domination?
juste en termes d'expected goals, pour compléter avec tes stats, Dortmund termine à 3 expected goals, ce qui n'a pas été fait évidemment depuis le début de la saison face à l'Inter, qui avait, juste pour la Ligue des Champions, avait encaissé 1,6 contre le Barça et 2 fois 0,9 contre Dortmund et le Slavia Prague.
Ouais, donc je te relance,
Non, non, mais
Christophe.
je vais enchaîner sur les temps forts. En fait, c'est simple, c'est-à-dire que l'Inter basait quand même son plan sur deux choses, à savoir d'abord le pressing très haut dès la première relance de Dortmund, ce qui faisait que bah, si tu réussissais à récupérer le ballon, tu étais directement en situation d'être dangereux. Donc ça, c'était la première partie des occasions qui venaient de là, en tout cas des moments où l'Inter pouvait être en position de faire quelque chose d'intéressant. Et la deuxième partie, c'est là-dessus que viennent les buts, c'est les circuits de jeu répétés, avec le fait notamment de trouver Brozovic qui est vraiment devant la défense, qui était sans cesse sollicité par les trois centraux, avec un truc assez habituel qui était une, deux, trois fois, l'un des centraux sollicitait Brozovic qui remettait, qui restait dos au jeu et qui continuait à faire jouer vers l'un des autres centraux. Donc du coup, ça faisait vivre le ballon, mais très proche du but, et ça tournait un peu en rond. Et puis d'un coup, Brozovic se mettait dans le sens du jeu, et puis il allait percuter. Et là-dessus, si lui, sur sa prise de balle, je pense sans doute aussi le fait un peu de surprendre son adversaire direct, pouvait casser la ligne, et ensuite, tu avais des circuits qui étaient assez répétés, qui te permettaient d'être dangereux. Donc ça, c'est le deuxième but qui vient là-dessus, le but de Vecino, qui est vraiment, vraiment très joli. Mais le problème, c'est que même passé la première demi-heure, ça devenait vraiment de plus en plus difficile d'avoir le pressing, sachant que le pressing de l'Inter, c'était souvent faire des pressing tracks sur les côtés, où en gros la seule solution pour les joueurs de Dortmund, c'était soit se trouver Nico Schulz à gauche, soit Hakimi à droite, et puis t'as Kandreva ou Biragi qui sortaient à toute vitesse sur eux pour que eux ensuite se précipitent et la remettent soit balance devant, soit dans l'idéal remettre dans l'axe et qu'ensuite l'Inter puisse récupérer la balle dans l'axe à 30 mètres du but. Sauf que Dortmund ça a quand même assez vite compris comment sortir du pressing de l'Inter, et l'Inter n'a pas forcément su mettre une intensité qui vraiment te permettrait de dépasser, parce que tu cours tellement vite et tellement partout, dépasser les bons circuits de Dortmund qui, en faisant tourner, finalement, obligeait l'Inter à se replier, parce que l'Inter, c'est vraiment soit on va chercher très haut, si ça passe pas, hop, on se replie, on passe en bloc bas. Il n'y a pas spécialement de bloc médian, sauf la partie où tu es soit en train de monter, soit en train de descendre. Et globalement, le Borussia a quand même assez vite trouvé comment sortir par des enchaînements de passes de droite à gauche, comment sortir du pressing de l'Inter. Et donc, ça arrivait assez vite sur un truc où Dortmund attaquait et l'Inter défendait. Et la vraie spécificité de ce match-là, c'est que finalement, en position défensive de bloc bas, une équipe de Conte a énormément souffert parce que Dortmund a réussi à trouver des relais de plein de manières différentes. Et donc, l'Inter, finalement, son seul moyen de ne pas souffrir, ça aurait été de pouvoir maintenir un pressing extrêmement haut pour du coup ne pas être en position réactive, sachant qu'en plus il y avait une grosse difficulté à lancer des transitions, à toucher Lukaku, à toucher Lautaro Martinez. Et finalement, à partir du moment où Dortmund était dans le camp adverse, à la fois sur sa capacité à faire des différences, comme je disais, avec Götze qui dézonnait, avec Sancho, Hazard qui se mettait dans les demi-espaces, beaucoup de mouvements, pareil Julian Brandt en numéro 10 entre les lignes, ça bougeait énormément et du coup c'était vraiment très très fluide offensivement sur attaque placée Dortmund. Et puis ensuite ça pressait très vite à la perte, donc du coup l'Inter est assez vite acculé et avait assez peu de solutions parce que sa défense en bloc bas et en défense placée, comme je disais, pour une équipe de Conte, de manière aussi surprenante que ça puisse paraître, surtout face à l'équipe de Favre. Les équipes de Favre savent attaquer sur attaque placée, mais c'est pas non plus forcément du Guardiola, etc. Bah là, Dortmund arrivait très facilement à trouver des espaces pour ensuite décaler sur les côtés, faire des centres et reprendre un point de pénalty.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Inter dans ce groupe, Flo, et d'ailleurs de l'Inter depuis le début de la saison, notamment avec leur performance contre le Barça et les sorties de balles. Mais Dortmund, sans crier gare, a bien embêté le Barça, ils obtiennent un match nul. Là, ils arrivent à renverser l'Inter en dominant une grande partie du match. Alors, c'est un peu effacé et dépassé par tous les problèmes qui sont évoqués autour de Favre, et notamment sa relation avec son vestiaire et le fait que le club ait été proche de le virer à certains moments de la saison. Mais est-ce que c'est pas un club dont on devrait un peu plus parler, notamment de Achraf Hakimi qui signe un doublé et que tu as beaucoup apprécié sur cette performance?
Bah oui, après avoir vu son match et en ayant vu d'autres aussi auparavant, je me posais la question de savoir s'il n'était pas top 3 au niveau des latéraux droits, tout simplement, derrière Kimmich, Alexander Arnold. Alors c'est un poste un peu sinistré aussi, hein, y a pas non plus énormément de candidats, mais son apport offensif, il peut avoir des trous d'air sur le plan défensif, ça c'est évident, mais son apport offensif est tel que est-ce que il y a un joueur qui existe qui est plus fiable que lui défensivement et qui fait la moitié de ce qu'il fait offensivement, ou peut-être les deux tiers, allez. Je suis pas sûr, ou en tout cas j'ai pas trouvé de candidat, je sais pas si vous en avez un qui vient comme ça.
Ça dépend quel échantillon tu prends, c'est-à-dire si tu me dis Carvajal il y a 2 ans, oui sans problème.
Carvajal, à l'heure actuelle.
Oui, non, mais c'est ça, Carvajal actuellement c'est plus discutable, parce que là Hakimi a quand même des stats offensives qui sont assez énormes. Il a marqué 2 buts cette saison en championnat, et là je crois qu'il a marqué 4 des 5 buts de Dortmund, si je dis pas de bêtises, sur cette Ligue des Champions. En tout cas il a marqué 4 buts. Ouais, pour un latéral, c'est quand même colossal.
Tu pourrais avoir Cancelo s'il jouait.
Ouais, mais... là, il a joué ce soir, mais c'est pas extraordinaire.
On est sur un latéral qui produit quasiment 0,40 expected goals plus expected assists par match en championnat.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est largement au-dessus d'Odriozola, qui est celui qui a pris sa place dans la rotation du Real. Et en plus, même si là il est à droite, dans l'absolu, Hakimi peut jouer latéral gauche aussi, et il a même déjà joué ailier, forcément vu son profil avec Dortmund. Donc du coup, ça en fait en plus un pion que tu peux un peu déplacer à ta guise et faire des choses intéressantes, sachant qu'il a 20 ans. Il a même pas 21 ans. Ah si, il a 21 ans depuis 3 jours. Enfin bon, voilà, il est extrêmement jeune.
Ouais, ça reste jeune. Après, pour revenir à ce que disait Christophe sur le volet collectif de Dortmund, moi j'ai beaucoup aimé, tu disais qu'il y avait beaucoup de mouvements entre Brandt, Hazard et Götze. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Götze, moi, sur la première mi-temps pour casser le pressing. Il a souvent décroché dans les half space à gauche ou à droite, surtout côté droit d'ailleurs, dans sa moitié de terrain, parce que en gros, lorsqu'il décrochait, théoriquement dans le système de l'Inter, c'était un des centrales de venir le chasser. Et le problème dans cette situation, c'est quand il décroche à droite, si le central gauche de l'Inter vient le chasser, t'as Sancho qui peut partir dans son dos. Et du coup, Götze est venu souvent casser le pressing en se proposant dans cette zone, en recevant la balle, et ensuite soit en se tournant, soit en remettant un de ses milieux, vu qu'il crée un surnombre dans le milieu de terrain. Et du coup, ensuite, Dortmund pouvait progresser parce que derrière, c'était fluide, les joueurs se proposaient dans les espaces et l'équipe réussissait à progresser jusque dans les 30 mètres de l'Inter. Et ensuite, comme tu le disais, sur toute la largeur, ils ont réussi à très bien manœuvrer dans les 30 derniers mètres. Je crois d'ailleurs qu'ils réussissent un nombre assez impressionnant de passes dans le dernier tiers sur ce match-là. 249 tentés, 210 réussis, et dont 43 qui sont tentés dans la surface de réparation et 24 réussis pour ajouter des chiffres. Et c'est vrai que l'Inter, j'ai l'impression que défensivement, ils ont un souci d'avoir leurs milieux de terrain sont très souvent collés à la défense. Et ça laisse énormément d'espace à l'adversaire pour lorsqu'il est par exemple côté gauche et qu'il est un peu enfermé à gauche, pour trouver une solution de passe intérieure en passant entre le milieu de l'Inter, qui est donc collé à la défense, et les attaquants qui redescendent mais qui ne vont pas non plus se coller à leur milieu, histoire de pouvoir être des solutions pour ressortir court. Et ça, je pense que c'est un problème. Si on se rappelle par exemple de la Juve de Conte à l'époque, où les deux milieux excentrés, c'était soit Marquisio, soit Pogba, soit Vidal autour de Pirlo, des joueurs qui étaient quand même beaucoup plus à même de sortir et d'aller mettre la pression. Une fois que la balle était sur le côté, c'était quand même difficile d'en sortir lorsque ces deux-là venaient de cadrer. Et là, c'est vrai que quand les deux joueurs sont Vecino, qui est pas non plus un joueur à très gros volume défensif, ou en tout cas je l'ai jamais vu avec un très gros volume défensif, et de l'autre côté aujourd'hui c'était Barella, ça reste un petit peu plus difficile d'empêcher l'adversaire de sortir du côté lorsque ce sont ces joueurs-là qui doivent coulisser. Du coup, Dortmund a vraiment beaucoup manœuvré de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Et avec la qualité des centreurs, avec la qualité de Brandt, de Hakimi, de Hazard aussi en termes de dernière passe, et puis les capacités de ces mêmes joueurs, plus de Götze à se projeter dans la surface, au fur et à mesure, bah, ils ont pilonné, ils ont réussi à marquer. Il y a même Witzel, je crois, qui s'est permis de monter en deuxième mi-temps pour placer une tête. Donc ça a un petit peu montré aussi les limites de cet Inter de Conte, trois mois après qu'il ait pris l'équipe. En même temps, ça aurait été inquiétant aussi qu'il rentre pas dans le dur à un moment donné, même si Conte, au final, lui a pété un câble direct auprès de ses dirigeants pour dire voilà, on pouvait pas y arriver, etc. Il va nous falloir des recrues. C'est pas faux, mais
puis il en a déjà eu quand même, hein, des recrues.
Il en a quand même eu pas mal cet été, oui, c'est vrai.
Oui, bah, Christophe, je te propose, pour débriefer un peu cette sortie de Conte, de répondre à la question de Pierre Marlière sur Twitter, qui nous dit pourquoi Conte n'a-t-il pas gardé certains joueurs comme Nainggolan, Miranda ou Perisic. Ça aurait pu l'aider pour faire tourner. Alors, il y a peut-être eu des considérations financières de la part du club, mais il a complètement craqué en conf d'après match. Je crois que j'étais même en zone mixte, au micro italien, Conte après la rencontre. Ça fait partie du personnage. Ça explique aussi pourquoi, malgré la qualité qu'il propose sur le terrain et sa capacité à transformer les équipes, en général, il fatigue peu à peu ses dirigeants.
Ouais, alors si tu prends vraiment les trois cas, Miranda, de ce que j'en avais vu l'an dernier, ça me semblait plutôt sur le déclin. Je pense qu'effectivement, ça aurait pu faire une rotation sur l'un des postes de centraux.
Après, les ambassades qui poussent un peu pour jouer.
Ouais, c'est ça. Là, pour moi, c'est pas forcément là où t'as le plus de besoin. La Skriniar de Vrij Godin, c'est quand même très très correct, et surtout, c'est quand même un poste où t'as besoin d'automatisme plus que de fraîcheur. Donc du coup, à partir du moment où t'as pas de blessure, ça me paraît correct. Perisic restait sur une saison assez catastrophique, et mentalement, il avait plus du tout l'air dedans. Donc dans tous les cas, fallait s'en séparer. Et puis Nainggolan, pareil, d'énormes problèmes de vestiaire. C'est-à-dire qu'un Nainggolan au top, tu mets Nainggolan d'il y a 2-3 ans, franchement, ça aurait été le joueur le plus heureux du monde, et Conte aurait été l'entraîneur le plus heureux du monde de pouvoir courir comme ça partout et pouvoir balancer des sacoches à 25 mètres. Seulement, Nainggolan n'était plus vraiment un joueur de foot l'an dernier. Le côté hygiène de vie, quand t'arrives à un certain âge, si tu cadres pas ça, si en plus t'as pas une attitude nickel dans le groupe, c'est pas top. Donc c'est vrai que sur ces joueurs-là, c'est difficile de le blâmer. Après, tu peux toujours dire qu'il aurait pu essayer de les relancer. Maintenant, je pense que ça faisait quand même partie un peu du deal qu'il arrive et qu'il se sépare d'au moins Perisic et de Nainggolan. Maintenant, c'est vrai que sur l'aspect recrutement, je comprends ce que dit Conte. Maintenant, enfin, tu peux étendre ça à peu près à tous les entraîneurs. C'est-à-dire que si c'est pas Antonio Conte, si c'est Pioli qui prend la tête de l'Inter, par exemple, t'as pas la moitié du budget qui est investi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des investissements sur le long terme en se disant, quitte à ce qu'on ait vraiment un top entraîneur qui coûte extrêmement cher, autant lui donner les moyens de ses ambitions et vraiment faire all-in. C'est-à-dire on fait une saison où on met énormément de sous partout. Là, finalement, là où tu peux avoir le plus de déception, c'est par exemple sur un Lazzaro, quoi. Le fait d'avoir Lazzaro qui est plus ou moins cantonné sur le banc, parce que quand il joue, il n'est pas forcément performant. Maintenant, il y a aussi un truc qui est un peu lié à la manière dont Conte prépare ses équipes, c'est-à-dire avec beaucoup de circuits de jeu répétés. C'est pas forcément facile d'intégrer des nouveaux parce qu'ils n'ont pas, même si tu les travailles en entraînement, ils n'ont pas forcément les habitudes de jeu, de compréhension, de capacité à faire certaines choses que l'ont les titulaires. Mais c'est vrai que là, du coup, tu arrives sur un truc un peu bâtard où effectivement, tu attends de l'Inter que cette équipe puisse être capable de rivaliser avec les meilleurs. Et effectivement, tu as certains joueurs qui sont de très très haut niveau. Il y en a d'autres qui progressent ou alors qui sont encore jeunes, donc qui du coup ont un développement un peu logique. C'est-à-dire Brozovic progresse même s'il coûte encore des buts sur des erreurs, là autant Martinez est en pleine explosion. Mais d'un autre côté, tu as Candreva couloir droit qui est une espèce de Victor Moses du pauvre, quoi. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce joueur à qui tu peux pas reprocher son envie, mais c'est sûr que tu as certains écarts de niveau que tu n'as par exemple pas dans le camp d'en face, où je pense que tu n'as pas énormément de fourries classées du côté de Dortmund. Maintenant, c'est globalement assez cohérent. Et là, si tu regardes même le banc, tu as Daoud, Delaini, Zagadou, bon là je suis un peu plus réservé, mais Guerrero, Piszczek et Alcacer qui sont sur le banc avec entrée de Piszczek, Guerrero, Alcacer. Tu as beaucoup plus de densité de joueurs avec peu d'écart que dans le camp d'en face où tu as un ou deux très très bons. Puis, enfin, par exemple, j'aime beaucoup Valero, mais Valero sur le banc à l'Inter, Valero avec Conte et Valero à 34 piges, est-ce que c'est forcément pertinent? C'est sûr que là-dessus, tu peux te poser des questions, mais c'est Conte année 1, donc c'est difficile de tout révolutionner en une saison.
La blessure de Sanchez est quand même très
Oui,
mal
voilà.
tombée.
Oui,
Il
aussi. Ça
y avait
donnait une
été intéressant
rotation.
contre le Barça et puis il se pète d'entrée. Bon, on a fait assez long sur ces deux équipes. D'ailleurs, on fera peut-être de Dortmund à un moment un cas d'étude, un sujet d'étude, Florent, dans nos podcasts mensuels,
Oui.
dont le prochain ne va pas tarder à arriver. On en reparlera.
Oui.
Passons à trois autres matchs dont on va parler un peu moins et un peu plus rapidement. Je vais partir avec toujours avec toi, Christophe, sur Bayern Olympiakos, le premier match post-Kovac. Toujours pas de succès s'est retrouvé. Ça a parlé de Wenger, ça a parlé de Rangnick, ça a parlé un peu de tout le monde. Qu'est-ce que ça a donné ce premier match avec l'intérimaire dont j'ai oublié le nom, mais dont tu vas me rappeler le nom? Et qu'est-ce que ça donne ce match contre l'Olympiakos, qui n'était pas forcément l'équipe la plus difficile à affronter sans coach?
C'est ça. Alors, le coach s'appelle Flick, Hans-Dieter Flick. Donc voilà, c'est avec en adjoint Miroslav Klose qui vient d'arriver. Sur le match, simplement le point à retenir pour moi, parce que je pense que ce match ne mérite pas une analyse très longue. Et puis ce podcast ne doit pas s'étirer non plus en longueur sur 10 000 heures. Simplement dire qu'il y avait quand même pour moi un changement de mentalité. Alors c'est difficile de jouer vraiment sur un match, mais alors le Bayern a énormément raté. Le Bayern gagne 2-0 sur les buts de Lewandowski à la 69e et Perisic à la 89e. Mais pour moi, l'histoire de ce match, c'est que le Bayern n'a quasiment concédé aucune occasion, voire même n'ait concédé aucune occasion de tout le match. T'as un tir qui part en tribune en première mi-temps, il me semble. Il y a un autre tir qui part en tribune à la 80e. Enfin bref, en face, il n'y avait absolument rien. Alors que l'Olympiakos faisait quand même plutôt, je trouve, un bon début de saison, notamment européen. Alors en championnat, je ne les ai pas vus. Mais sur les compétitions européennes, tout ce qui est Podence, etc., je trouvais que c'était assez intéressant. Et là, l'Olympiakos n'a absolument pas eu voix au chapitre. Et donc, j'ai plutôt tendance à mettre ça sur le côté bonne volonté du Bayern à presser à la perte, etc. Donc, on sait le niveau de Lewandowski qui continue à marquer. On sait que Gnabry est un bon ailier qui est en train de progresser, que Coman élimine à peu près tout le monde sur les dribbles en un contre un à l'arrêt, où à chaque fois il fait des choses qui ne sont pas forcément super spectaculaires, mais sur son explosivité, il élimine tout le monde, il se donne le temps de centrer et ses centres dans la foulée sont bons. Donc ça, c'est un peu de l'acquis. Par contre, le fait que le Bayern n'ait absolument pas eu à défendre parce qu'il y avait un bon pressing à la perte et que du coup tu passais tout le match dans le camp adverse était assez intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait plus tellement ces derniers temps. Si le Bayern prenait des buts, c'est aussi parce qu'il prenait des occasions. Et pourquoi il concédait des occasions? Parce qu'il n'arrivait pas à empêcher les adversaires de jouer les transitions. Là, l'adversaire n'en a pas eu. Alors même si le contexte était peut-être favorable, j'y vois quand même certains changements de mentalité, donc à voir si ça va continuer face à un adversaire Bundesliga qui sera plus à même de jouer les transitions, plus habitué à courir vite, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt un bon signe pour le Bayern de gagner 2-0. C'est plus ça que je retiens que le fait que bah, sans un très bon gardien, José Sa en face et sans la maladresse, tu aurais gagné 7 ou 8-0.
Mais 27 tirs à 3 pour le Bayern, c'est énorme.
Ouais, j'ai raté le troisième parce que j'étais parti sur la Juve, mais les deux premiers sont à 30 mètres et donc ils ont le mérite d'exister, mais sans plus.
Et donc je lisais la compo d'Olympiakos et le banc, et c'est la cour des miracles, hein, le banc, parce qu'il y avait El Arabi, par exemple, Valbuena, Yacine Benzia, Bobby Alain, c'est un gardien du Red Star, Papadopoulos, alors je ne sais pas lequel c'est, je me demande si c'est pas l'ancien de Leverkusen, non, pas du
c'est
tout.
C'est Avram,
c'est
qui
pas
a
du
un
tout le bon
parcours
âge, et
incroyable où il a
10.
joué au Japon et en Australie, donc il s'est déjà fait quelques continents.
Et Vasilis Taurosidis, qui est encore là, donc effectif assez fou, et c'est pareil pour le 11, où c'est un mélange de un peu tout et n'importe quoi, dont Semedo, je crois, qui est parti en prison quand il est parti à Villarreal.
Oui, et prison pour des choses où les gens généralement ne seraient pas encore sortis. Hein.
Oui, donc.
C'était un peu tendu.
Florent, à toi sur le match entre le Barça et le Slavia Prague, notre équipe un peu chouchou de cette Ligue des Champions, qui s'en sort toujours pas, même si là, ils ont réussi quand même à gratter un point, mais bon, ce sera un parcours pour l'honneur. On continue à se régaler avec eux. Par contre, côté Barça, ça ne change pas. Toujours des performances irrégulières. Valverde n'a pas l'air de trouver la solution.
Non, il n'a pas l'air de trouver. Il y a deux choses, en fait. Déjà, sur ce match, il y avait d'abord l'approche du Slavia Prague, qui était très ambitieuse. C'était une ligne très, très haute, de manière à ne laisser vraiment aucun espace derrière le rond central, on va dire, pour schématiser à peu près au Barça. Et en effet, le Barça a vraiment eu beaucoup de mal à trouver des espaces dans cette zone. Et du coup, pour s'en tirer, il fallait plus chercher la profondeur. Et pour chercher la profondeur, il fallait des courses. Et c'est là qu'il y a eu un petit souci, c'est que sur 90 minutes de jeu, il y a quand même eu assez peu de situations où un passeur a réussi à rencontrer l'appel d'un partenaire, tout simplement en profondeur. Dembélé l'a fait parfois côté droit avec Semedo, particulièrement en première mi-temps, puisqu'en deuxième mi-temps, une des rares choses qui fonctionnait en première ne pouvait plus avoir lieu, puisque Semedo est passé côté gauche et Sergi Roberto est entré à droite. Alors je ne sais pas si Jordi Alba était blessé, mais en faisant ça, il a cassé un semi-circuit qui fonctionnait pas trop mal et qui permettait un petit peu à Dembélé de briller, parce qu'au-delà de ces passes-là en profondeur pour Semedo, il a quand même perdu énormément de ballons. Je crois que sur la première mi-temps, il perd un ballon sur deux quasiment. Ce qui quand même est assez ennuyeux lorsqu'il s'agit de créer. À côté de ça, on a en effet pas du tout vu Griezmann. On a très peu vu De Jong, puisque au milieu de terrain, il n'y avait pas de solution. Alors il a essayé parfois de faire les appels en profondeur, mais c'est pas non plus son taf. Et côté tchèque, en plus, pour ajouter au souci, les tchèques étaient quand même plutôt intéressants en transition. Busquets a une nouvelle fois beaucoup souffert pour stopper ses transitions. Même pour faire les fautes tactiques, il était en retard. Défense, oui.
Il se crée très peu d'occasions de ce que je vois, Florent, parce que je suis en train de regarder les Especial Goals. Le Barça finit à 2 et Prague à 0,2.
Ouais, ils finissent
peut-être
à 0,2.
Peut-être des situations, mais pas de concrétisation, ouais. Pas de 30 derniers mètres en tout cas.
En fait, je vais aller chercher les Expected Goals. C'est quand tu regardes leur non-shot Expected Goals, c'est-à-dire on prend les statistiques autres que les tirs et on en déduit à partir de ces stats-là combien d'Expected Goals ils devraient réussir à se créer. Le Slavia finit à 0,2, mais en non-shot, ils sont à 0,9. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'était l'incapacité de l'équipe, malgré des situations plutôt favorables, à transformer ça en occasion de but et en tir. Et c'est vraiment ce qui a plombé le Slavia, mais tu vois, quand tu anticipes la suite pour le Barça et le prochain match face à Dortmund, qui sur les transitions, c'est quand même autre chose en termes d'efficacité. Tu peux te poser des questions sur ce match à venir pour le Barça en Ligue des Champions, sachant qu'aujourd'hui, certes, ils sont leaders avec 8 points, mais Dortmund est juste derrière à 7, et l'Inter, je crois, est à 5 ou 6.
Tu veux nous parler de ton scénario catastrophe?
Non, l'Inter est à 4, mais oui, il y a un scénario catastrophe, en effet, pour le Barça. C'est le scénario où ils ne font que match nul face à Dortmund, alors que l'Inter bat le Slavia. Même si c'est pas forcément gagné de battre le Slavia, on l'a vu dans les autres matchs.
Et Slavia qui joue d'ailleurs toujours une place, qui est toujours la troisième place. Hein. S'ils battent l'Inter, ils passent devant. Donc
ils peuvent encore jouer la troisième place. Mais si cette cinquième journée se passe avec ce scénario-là, on arrive à une sixième journée avec un Inter-Barça où le vainqueur se qualifie. S'il y a un vainqueur, s'il y a match nul, c'est le Barça qui passe. Mais là, le Barça sera en grand danger. C'est en fait ce qui est marrant dans ce scénario, c'est que c'est plus difficile de penser que le Slavia perde les deux matchs que le Barça ne prenne qu'un point sur les deux matchs à venir. En tout cas, quand tu vois leur performance face au Slavia, déjà qu'en plus, lors du match aller face au Slavia, ils avaient été énormément baladés et dominés même, mais ils s'en étaient sortis grâce à un but, enfin une victoire de buts à 1. Après, bon, comme tu le disais, le Barça aussi termine quand même à 2,5 d'XG sur ce match-là, donc c'était pas brillant, mais ils ont quand même eu des occasions pour l'emporter. Et le gardien du Slavia a quand même fait quelques exploits, un gardien qui s'appelle Kolar. Qui avait déjà été bon, je sais plus dans quel match, mais j'avais déjà vu très bon. Donc, ça va être compliqué malgré tout de se qualifier. C'est vrai que sur le plan du jeu, en fait, si vraiment t'enlèves les résultats, le Barça est la troisième équipe la plus convaincante du groupe, je pense aujourd'hui. Et
C'est la troisième
encore, ça les met derrière le
meilleure attaque
Slavia.
du groupe. C'est
Donc.
la troisième meilleure attaque du groupe aussi, ce qui est assez rigolo. Ils sont à 4 buts en 4 matchs. Bon, il y avait des questions sur Twitter sur le statut de favori du Barça qu'on leur avait attribué en tout début de saison et s'ils sont toujours favoris avec ce qu'ils montrent et avec Valverde. On aura l'occasion d'en parler après la sixième journée, qui de toute façon va assez vite arriver parce que c'est dans un mois. Et puis on fera un débrief complet de la phase de poule et s'ils sont déjà éliminés, ben, on n'aura plus à avoir cette discussion. Passons au dernier match qu'on va évoquer dans ce podcast, c'est Atalanta-Manchester City. Christophe, deux équipes qu'on aime bien et qui ont donné un match plutôt intéressant puisque City a changé de gardien deux fois. D'abord sur blessure, puis encore ensuite sur blessure, je crois.
Non, sur carton rouge.
Sur carton rouge, bah, tu vois, je me méprends. Et ça a donné l'occasion à Kyle Walker de s'essayer dans les buts. Ce qui a octroyé d'ailleurs une question sur Twitter de quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que ça a donné sa performance dans les buts. C'est toujours intéressant de voir ce que donnent les joueurs de champ. Est-ce qu'il a eu du boulot? Ou est-ce que City l'a assez bien protégé? Enfin bref, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Pourquoi il y a eu blessure? Pourquoi il y a eu carton rouge? Comment ça a fini? Est-ce que l'Atalanta a enfin pris des points? Dis-nous tout.
Alors, donc l'Atalanta a enfin pris des points, un point. Match. Pour faire dans le stéréotype, deux mi-temps, deux visages. La première, bon, l'Atalanta joue un système très individuel et forcément, quand tu es face à un adversaire plus talentueux que toi, ça peut assez vite exploser à la fois avec des courses croisées, etc., où ça se déplace partout. Du coup, tu sais plus forcément où est ton homme. Et deuxièmement, parce que City est capable, au-delà de ses qualités techniques par la passe et les redoublements et les circuits, etc., est capable de faire des dribbles et d'éliminer relativement facilement les adversaires. Donc, du coup, s'il y a un décalage qui se crée au début de l'action, après, c'est un peu embêtant parce que tu joues des infériorités numérique pour toi. Donc c'est donc là-dessus sur la première période, c'était un petit peu le scénario des autres matchs de l'Atalanta sur certaines phases, sur cette phase de Ligue des Champions où ça pouvait assez vite exploser, notamment l'aller face à City. Clairement, il y a un 0 par Sterling au bout de 7 minutes. Bon, il y a un penalty mais qui est raté par Jesus, mais sinon il y a quand même pas mal de grosses situations, pas forcément d'énormes occasions, mais de situations où City arrive avec du temps et de l'espace à 30 mètres du but. Donc sur la première période, tu te dis bon, il y a absolument aucun risque que City laisse filer. Et puis en deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, Ederson remplacé par Bravo sur petite blessure, mais c'est pas ça qui explique fondamentalement le score, même si Ederson était quand même précieux par son jeu au pied qui est meilleur que celui de Bravo. Mais c'est surtout que l'Atalanta a réussi à tenir le ballon, à jouer plus haut, et City n'a pas forcément à la fois réussi à bien couvrir ses espaces sans ballon, et c'est quand même une thématique récurrente qui est notamment beaucoup Julien Momon, avec qui on discute de ça notamment quasiment à chaque match de City. City n'arrivait pas vraiment à bien quadriller le terrain, et du coup l'Atalanta réussissait à trouver de l'espace sans forcément avoir énormément de choses à faire. Et deuxièmement, City n'arrivait pas à bien ressortir les ballons, du coup il y avait très très peu de transitions à jouer, et l'Atalanta réussissait à tenir le ballon dans le camp de City. Bon, il y a eu l'égalisation assez vite puisque Pasalic met une tête, sa 1 milliardième tête de sa carrière à la 49e, mais l'Atalanta continue à pousser. Finalement, City subit plus qu'autre chose, et avec aussi pas mal de déchets dans l'entrejeu, notamment Gundogan qui provoque directement l'exclusion puisque c'est une passe ratée qui offre une énorme transition à l'Atalanta. Et Bravo, qui était avancé assez loin de son but puisque son équipe avait le ballon, était sur un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recule vers mon but et j'essaye de gagner le 1 contre 1? J'avoue, je sais même plus qui c'était. J'aurais tendance à dire Ilicic, mais je suis même pas sûr, parce qu'il faut dire quand même plus l'Atalanta jouait sans véritable attaquant. T'avais Gomez, Ilicic, Pasalic qui étaient devant. Mais Muriel est resté sur le banc jusqu'à la 92e. Et Bravo a choisi la solution inverse, c'est-à-dire je sors sur le joueur et je le dégomme, puisqu'il y avait très très peu de chances qu'il chope le ballon, il le dégomme, il fait une faute, il prend logiquement rouge, oui, c'est Ilicic. Il prend rouge, donc c'est à la 81e. Walker rentre après 5-6 minutes, où tu ne sais pas pourquoi, personne, on ne sait pas ce qui se passe, mais il rentre pas. Finalement, il rentre, il fait un arrêt, alors pas super académique sur le coup franc de Malinowski, mais il fait quand même un arrêt. Et ensuite, l'histoire de la fin de match, c'est que l'Atalanta fait n'importe quoi. Arrive du coup relativement régulièrement à 30 mètres du but adverse, mais ne frappe jamais, alors que tu sais que le gars en face n'a quand même pas été super rassurant sur le coup franc qui a suivi l'expulsion. Et l'Atalanta ne fait aucune frappe sur le restant du match. Du coup,
Ouais,
Walker, c'est difficile de juger.
c'est ce que je suis en train de regarder. Ouais, il tire une seule fois entre la sortie de Bravo et la fin de match. Alors que même à 30 mètres, moi j'aurais frappé, mais bon.
Ouais, mais en plus, ils ont quand même d'un moment, une ou deux fois, Pasalic notamment, du temps, de l'espace pour frapper, ils le font pas. C'est un petit peu étonnant. Et puis vraiment, enfin, un match un peu n'importe quoi où l'Atalanta fait des fautes qui, du coup, donnent du temps à City pour en gratter sur coup franc, etc. Donc, fin de match assez, assez n'importe quoi où finalement, sur les 5-6 dernières minutes d'arrêt de jeu, il se passe quasiment rien. C'est City qui garde le ballon au poteau de corner, etc. Ce qui est assez amusant sur un match qui n'était pas mené par cette équipe, alors que parfois, quand elle mène, elle continue à attaquer. Mais voilà, assez, alors content pour l'Atalanta parce que c'est bien aussi de voir que ce plan de jeu peut résister face à des gros et tu n'exploses pas forcément à chaque fois que tu es face à meilleur que toi. Donc ça prouve que l'Atalanta a sa place en Ligue des Champions, sachant que je pense que cette équipe peut y retourner la saison prochaine si rien ne bouge, mais extrêmement déçu par City qui s'est retrouvé dans une position défensive et qui n'a jamais véritablement réussi à réduire les espaces. Donc ça fait entre ça et Conte, ça fait j'enchaînais le visionnage de deux matchs où les équipes en bloc bas, enfin médian bas, avait énormément de mal à combler tous les trous sans forcément que l'adversaire n'ait besoin de faire énormément de choses pour en trouver, même si là aussi il y avait un bon quadrillage ligne de touche, demi-espace, axe, etc. sur les cinq zones du terrain sur les deux côtés. Mais voilà, c'est pas super rassurant je trouve pour City avant d'affronter Liverpool, parce que tu peux dire qu'ils avaient la tête à ça ou autre. N'empêche que là c'était quand même un problème d'occupation de l'espace qui est assez récurrent depuis le début de saison.
Surtout que du coup, ils pourraient jouer sans Ederson. Ils attendent de voir, je crois, la gravité de la blessure, mais ça a l'air d'être par précaution plus qu'autre chose pour le moment. Alors, il y a encore un scénario où l'Atalanta pourrait se qualifier. Il faudrait qu'ils gagnent leur dernière rencontre à Donetsk et à domicile contre Zagreb. Je crois que c'est ça. Oui, c'est dans l'ordre inverse. C'est domicile contre Zagreb et ensuite à Donetsk. Et que City ne perde pas ni contre le Shakhtar, ni contre Zagreb, pour que l'Atalanta finisse avec 7 points et Shakhtar et Dynamo avec 6. Ce qui ferait que l'Atalanta finirait deuxième derrière un City à 16 points ou à 12 points s'ils font des matchs nuls ou à 14 s'ils font un match nul et une victoire.
Ça se joue
Donc
quand
qui
même à rien parce
sait?
que le Shakhtar met deux buts dans les arrêts de jeu
Oui.
face à Zagreb. Et Zagreb aurait pu être en très très bonne position pour se qualifier. Ce qui est quand même inattendu, même s'il y a deux trois bons joueurs, notamment Dani Olmo. Si on avait dit ça avant le début de la campagne, bon là finalement ils sont coude à coude avec le Shakhtar. Je ne suis pas persuadé qu'on y aurait cru.
Ouais, bah oui, là, si Zagreb avait gagné, ils auraient été quasiment qualifiés parce qu'ils avaient battu 4-0 l'Atalanta au match aller. Donc il aurait fallu que l'Atalanta derrière en mette 5 au match retour pour revenir à 7 points et gagner sur la différence de but particulière. Enfin bref, c'était quasiment terminé. Là, pour l'instant, le miracle fait que l'Atalanta peut encore s'en sortir. On passe au vrac désormais, où on a plusieurs contenus qui sont pas du tout ni question Ligue des Champions. Alors si, peut-être un avec Florent, à qui je vais redonner la parole et qui va s'occuper de nous parler de Eder Balanta.
Oui.
On n'en a pas parlé lors de notre débrief de PSG Bruges, mais c'est un joueur qui a eu une carrière
Compliqué.
chaotique, chaoteuse même, je
Ouais.
dirais, et qui là t'a intéressé sur cette rencontre où il ne jouait pas d'ailleurs à son poste où on l'a vu percer défenseur central, il jouait un peu plus haut devant la défense.
Ouais, il jouait au fameux poste qu'en Amérique du Sud. Parce que du coup, j'ai tapé Eder Balanta sur Twitter pour voir un petit peu ce que les d'autres personnes en avaient pensé. Parce que moi, je l'ai trouvé très intéressant. Donc, il y avait pas mal de. Sans doute de Colombiens qui évoquaient sa performance et au poste de Cinco, puisque c'est comme ça qu'ils appellent les joueurs à ce poste-là en Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'il a été plutôt intéressant dans un registre où il y avait évidemment l'impact défensif qu'il devait apporter, mais bon, vu que les Parisiens étaient assez peu actifs, assez peu en mouvement dans sa zone, comme je le disais tout à l'heure, ils sont allés très peu souvent entre les lignes. Donc il était dans une situation assez confortable, il pouvait même aller parfois aider ses défenseurs pour faire des prises à deux sur Mbappé ou sur d'autres joueurs. Donc ça c'était positif. Et avec la balle, il a eu une distribution très latérale, certes, pour un milieu de terrain, mais c'était des passes d'une bonne vingtaine de mètres, donc qui permettaient à chaque fois de sortir de la zone de pression et d'aller et de libérer vers un partenaire démarqué qui pouvait ensuite gagner du terrain balle au pied. Donc ça aussi, c'était intéressant. Je crois qu'en termes de passes, sur l'ensemble du match, il doit toucher une quarantaine de ballons et réussir, allez, on va dire 80% de ses passes. J'ai plus la stat sous les yeux, mais c'est vrai que quand tu regardes sa map de passes réussies, on est vraiment sur des passes assez longues, et je crois que toutes ces passes ratées, ce sont des passes longues aussi. Donc voilà, on n'est pas sur un 6 qui va jouer petit, qui va demander à ses partenaires de s'approcher de lui. C'est quelqu'un qui peut de sortir de pas de, forcément de sortir de la pression, mais il va faire un contrôle, une passe, et une passe à 20 mètres qui va être assez précise. Au-delà de sa performance, il y a son parcours. Certains, enfin, nombreuses sont les personnes qui le connaissent sur Football Manager, parce que c'était une pépite à choper il y a quelques années. Et malheureusement pour lui, je suis allé chercher en effet son nombre de matchs joués depuis qu'il a éclos, depuis qu'il est arrivé au plus haut niveau. La saison où il a le plus joué, c'était 2013-2014 avec River. Sur Soccerway, on n'a que les matchs de championnat. Mais il joue 29 matchs, donc c'est pas mal. Mais quand tu prends la suite, 2014, 2 matchs joués, alors en championnat uniquement, hein. 2015, 11 matchs. 2016, 9 matchs. Et ensuite, il signe à Bâle, où il joue 18 matchs, puis 11 matchs, puis 18 matchs, puis 3 matchs la saison dernière. Et là, le voilà à Bruges, où il en est à 3 matchs joués pour l'instant. Donc voilà, malheureusement un joueur qui avait l'air d'avoir pas mal de talent et un bon package, mais qui a été plombé par les problèmes physiques et qui malgré tout n'a que 26 ans. Donc qui sait s'il fait une bonne saison avec la Ligue des Champions et sans doute la Ligue Europa ensuite, puisque Bruges devrait, à mon avis, vu leur performance et vu celle de Galatasaray, est en bonne posture en tout cas pour être reversé en Ligue Europa. Peut-être qu'il aura l'occasion de vivre une deuxième carrière un peu plus intéressante, même s'il aurait sans doute pu espérer taper plus haut lorsqu'il a éclos au tout début. Mais match intéressant de sa part, et je crois qu'il n'était pas là au match aller. En tout cas, j'ai pas souvenir, mais ce soir, il a été plutôt bon au parc.
Merci Florent pour les fans de Football Manager, pardon. On
Ah,
enregistre bien le coup
il y a le vin qui
d'épique.
vient de sortir, donc fallait
En
bien.
plus, ouais, j'ai
Ouais.
vu qu'il faisait un très très gros teasing. Bah, d'ailleurs, quand on était à Bordeaux ce week-end, où on a enregistré une feu fac des patrons, puisqu'elle a disparu des internets pour des raisons techniques, je crois que notre ami Yanis, supporter Barcelone, était en train de jouer au vin, il me semble, il était sur la bêta, ce qui a failli me faire retomber addict. Christophe, quel est ton vrac cette semaine?
Alors, mon vrac cette semaine concerne un podcast qui m'a été recommandé sur le Discord. Je crois que c'est eux qui avaient recommandé ça. En tout cas, ils en avaient parlé sur notre Discord du podcast. C'est The Greatest Game with Jamie Carragher. Donc, il n'y a pour l'instant qu'un seul épisode qui est sorti il y a 6 jours. Donc, c'est au moment où vous écoutez ce podcast. Donc, s'ils sont sur un rythme d'un par semaine, j'imagine qu'il y en aura peut-être un deuxième. Toujours est-il que là, le premier, c'était avec Thierry Henry. Et c'était assez intéressant. Alors, Carragher a toujours un accent totalement incompréhensible, en tout cas pour moi, où je ne comprends pas la manière dont il cherche à prononcer la langue anglaise, mais clairement, ce n'est pas la façon dont j'ai l'habitude. Mais puisque lui pose des questions et que Henri fait des réponses très longues, et que Henri a quand même un accent assez facilement compréhensible, globalement, si on a une bonne base en anglais, c'est assez simple à comprendre. Donc Henri, alors, ne parle pas de son parcours d'entraîneur, mais il revient pas mal il revient sur son parcours de joueur, sa vision du foot, etc. Bon, bien sûr, le truc classique, son rapport au père extrêmement, extrêmement exigeant, mais aussi des choses un petit peu différentes. Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'aller à Monaco étant jeune? Pourquoi est-ce qu'il jouait comme ça? C'est-à-dire le fait que c'était avant tout un ailier plutôt qu'un numéro 9, et qu'ensuite, en tant que numéro, lui, ce qu'on ne considère pas comme un buteur, mais plutôt comme un joueur offensif, une espèce d'ailier replacé qui veut participer au jeu, etc. Donc, il y a des choses assez intéressantes sur ça. Ça dure 1 heure, 1 heure 6, et ça se termine par une petite dédicace. Alors, j'en aurais forcément parlé, même s'il n'avait pas dit ça, parce qu'en plus, je n'avais pas spécialement d'autres idées de vrac. Mais en plus, il m'a fait une petite dédicace involontaire, j'imagine. Quand on lui a demandé son five-a-side, donc son équipe pour faire un five, il a notamment pris Laudrup, de tête. Il a pris Pelé, Maradona, Beckenbauer, Laudrup, et j'oublie le dernier. Mais toujours est-il que voilà, il a dit que Laudrup était le numéro 10, le meilleur numéro 10 pour lui, l'espèce de numéro 10 ultime. Voilà, Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Laudrup. Donc en plus, il a mis et Cruyff et Laudrup. Donc c'est assez génial. C'est quasiment l'équipe que je prendrais. Je pense que si tu mets pas de gardien, à part Pelé que je remplacerais par Di Stefano, sinon le Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Laudrup, c'est quand même assez intéressant. Si tu prends pas, alors il n'a pas pris Messi parce qu'il voulait pas mettre les joueurs avec qui il a joué en club, mais donc voilà, il explique qu'il se fait des compiles deux fois par mois. Il se fait les grosses compiles. Je crois que c'est la compile d'une heure et demie qui se fait en plus de Laudrup, juste pour voir ses passes, etc. Il explique comment Laudrup faisait bien jouer ses partenaires et que c'était un peu le 10, numéro 10 parfait. Donc voilà. En plus, Thierry, dont je n'aime pas forcément la posture et le caractère, etc. Je lui reconnais là-dessus un certain bon goût footballistique qui m'a ravi.
Oui, c'est une bonne période pour Thierry Henry, évidemment, parce que lors de notre saga sur l'Euro 2000, il nous a clairement sauté aux yeux, parce que c'était sans doute le meilleur Français sur l'ensemble de la compète. Et si vous voulez en savoir plus sur notre avis, bah, rejoignez-nous sur Patreon. On
Il y a même
a
une vidéo de Thierry Henry qui
il va
devrait
arriver.
arriver bientôt.
Oui. Une vidéo des meilleurs adversaires aussi de l'Euro 2000, meilleurs adversaires de l'équipe de France, qu'on fera d'ici peu également. Mon vrac, c'était sur le hors-jeu. Et pourquoi je trouve ça un peu idiot ces derniers temps qu'on juge le hors-jeu à l'épaule et non pas au pied. Je crois que c'est d'ailleurs arrivé sur pas mal de matchs ce week-end. Il me semble que c'est arrivé sur un match de Liverpool aussi en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que c'est assez bête, je trouve, de du coup favoriser la défense. Alors c'est pas forcément volontaire de la part des instances du football. Je pense qu'elles s'en rendent pas compte, ou alors elles s'en sont pas rendues compte au moment de mettre en place la VAR. Mais c'est que du coup, entre un joueur qui sort de sa ligne défensive pour mettre un joueur en jeu et un joueur qui part dans la profondeur, bah forcément, ce sera toujours l'attaquant qui aura les épaules les plus avancées sur le terrain. Et à l'inverse, le défenseur, vu qu'il joue le hors-jeu, va amener son corps plus haut sur le terrain, enfin plus haut pour lui, et va du coup être penché dans la direction inverse. Donc si on ne juge plus au pied et si on juge aux épaules, ça va favoriser la défense. Ça va aller à l'encontre de la vraie essence de la règle du hors-jeu au départ, qui était non pas de sanctionner le moindre centimètre d'avance d'un attaquant, mais d'éviter que les joueurs campent, comme on aimait camper dans la cour de récré, rester devant et se dire qu'à la récupération de balle, il suffira qu'il y ait une longue passe qui nous arrive pour finir par marquer un but tout facile. C'était ça au départ, l'objectif de la règle du hors-jeu. Et la diffusion télévisuelle a un peu fait oublier que c'était ça vraiment l'objectif. C'est un peu dommage parce que du coup il y a des buts qui sont refusés pour des décalages un peu ridicules, et ça rejoignait un point que toi tu voulais évoquer, Christophe, sur le fait que notamment c'est sorti ces derniers jours, parce que Tony Enchaperon en parlait, je crois, sur le fait que c'était fait en fait beaucoup plus manuellement que technologiquement, notamment sur le moment où le décalage, ou en tout cas l'image était fixée. Que ça devrait être, ou ça doit être en théorie, sur le moment vraiment où la passe part du porteur de balle et de celui qui donne cette dernière passe. Mais si le gars derrière la machine a le moindre décalage, ou fait un peu avant ou un peu après, ça fausse complètement le bilan. Et du coup, on s'appuie sur une technologie qui n'en est pas une, puisque ça reste de l'humain. Dans l'ensemble, je trouve ça assez idiot. J'ai l'impression qu'on commence à s'en rendre compte. Mais que maintenant. C'est un peu dommage parce que c'est des choses qu'on aurait pu prévoir si on avait un peu anticipé. On en a longtemps parlé sur les cahiers du foot. Ça a été souvent quelque chose de un cheval de bataille des cahiers du foot. Bon, voilà. On s'en rend compte petit à petit. Espérons que chaque été se soit amélioré et qu'il y ait des réflexions autour de ça, parce que pour l'instant, c'est quand même pas top top. Et entre ça et les séquences où parfois ça intervient et parfois ça intervient pas, c'est assez incompréhensible aujourd'hui, surtout que d'une compète à l'autre, les règles ne sont pas les mêmes, donc on est un peu perdu là-dedans. Voilà pour
Raph,
mon vrac.
je vais juste rebondir sur ce que tu disais, parce que tu me disais que, enfin, tu mentionnais un truc, on n'en a pas parlé, donc je vais lire le passage de l'article de l'équipe. C'est l'équipe d'il y a 2 jours au moment où on enregistre, je crois. C'est l'équipe du 5 novembre. C'est un article qui s'appelle Le VAR à la limite du hors-jeu. Je vais juste très rapidement lire la fin de l'article. Donc déjà Pascal Garibian juste avant, directeur technique de l'arbitrage, dit il n'y a pas d'image produite spécialement pour l'arbitrage vidéo. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de choses que les gens verraient dans la cabine VAR, dans l'espèce de bus là, que toi tu ne verrais pas. Donc c'est-à-dire qu'on a accès aux mêmes images. Donc déjà, il n'y a pas de truc ou d'espèce de complot où se dire oui, mais il y a une partie qu'on n'estime pas, mais qui eux ont plus d'infos. Non, c'est pas vrai. Donc déjà, on est sur là-dessus, on est sur un pied d'égalité. Et c'est donc je te dis, pour évaluer la marge d'erreur sur un hors-jeu, prenons le dernier exemple en date, celui d'Augustin. Alors donc c'est sur Monaco où finalement il n'y a pas de carton rouge pour le défenseur de Saint-Etienne, parce qu'Augustin a signalé hors-jeu. Lors de son appel en profondeur, il atteint une vitesse maximale de 31 km/h sur son sprint, selon les données de Canal+. Selon la fréquence d'image par seconde, qui est de 25, ce qui est la norme européenne et française, alors que ça peut aller jusqu'à 120 pour les caméras ultra slow motion du mondial, il se déplace alors de 6,9 à 34,4 cm par image. Donc de 6 à 34 cm par image. La marge d'erreur peut être réduite avec des outils dernier cri, mais jamais éliminée. Autrement dit, Augustin bouge au moins de 6,9 cm en 0,008 secondes. Donc c'est-à-dire que concrètement, 0,008 secondes, 6,9 cm, quand tu juges au centimètre, c'est assez problématique. D'où l'importance de la difficulté d'appuyer sur pause à l'instant T au risque de tout changer. Donc voilà, puisque c'est à l'arbitre qui appuie à l'instant T, c'est lui qui définit ça. Sachant qu'un ballon qui quitte un pied, c'est pas un coup de fusil, quoi. Il y a quand même une petite marge d'erreur au moment où ça commence à entrer en contact, au moment où ça le quitte véritablement. Donc c'est aussi pour ça, hein, parce que tu dois appuyer toi-même, que ça peut prendre du temps et que c'est pas automatique le fait de juger ou non qu'il y a hors-jeu, parce qu'il faut que l'arbitre puisse se repasser l'image bien au ralenti pour pas qu'il se rate. Mais en plus, même en appuyant sur le bon pile au bon moment, il y a une marge d'erreur de 7 cm. Quand tu vois tous les hors-jeux qui sont au millimètre, hein, j'ai vu des données, je crois que celui de Liverpool, il y en a un qui était refusé pour 2 cm, il me semble, face à Tottenham. Enfin bref, tu te rends compte que finalement, là pour l'instant, dans l'état actuel de la technologie, c'est un peu une chimie. Au-delà de ce que tu disais sur la position du corps qui a signalé hors-jeu, concrètement, tous les hors-jeux qui sont au centimètre, en fait, vous pouvez estimer que la technologie a raison. Il n'y a aucune certitude de savoir si elle a raison ou tort dans ces cas-là.
Bon, c'est dommage parce que si on se disait, bon, bah, s'il y a un hors-jeu, on n'arrive pas à juger, on laisse le but valable, ça rendrait le football un peu plus offensif. Il y a des championnats qui en ont vraiment besoin, donc bon, notamment notre chère Ligue 1. Ça fait plus de mal que de bien pour l'instant, notamment sur les hors-jeux. Voilà pour les vracs, on passe à nos paris avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Nos paris avec PMU.fr. On va rapidement quitter la Ligue des Champions pour aller en Ligue 1 et en Italie. Je vais d'abord aller en Ligue 1 avec toi, Florent, parce que tes deux paris concernent le championnat français. Et ton premier, c'est sur l'alléchant de Lille-Metz.
Oui, l'alléchant Lille-Metz est un pari qui va être assez court à évoquer. C'est sur Victor Osimhen, dont Christophe a fait un portrait assez élogieux tout à l'heure. Et je le rejoins dans ce portrait. C'est un joueur qui n'a pas marqué sur les 2 derniers matchs, il me semble, et a eu assez peu d'occasions face à Bordeaux et face à Marseille. Il n'a qu'un tir sur ces 2 matchs-là. Il en avait 3 face à Toulouse lors du match précédent. Mais bref, ses expected goals sont quand même un peu baissés sur les dernières journées, puisque pour remonter un petit peu. Pour remonter jusqu'au mois d'août, il fait du 0,83, 0,52, 1,01, bon, 0,18, 2,39 face à Strasbourg, 0,62, 0,84. Et là, sur les 3 derniers matchs, il a 0,14, 0,07 et 0,08. Mais je me dis qu'à domicile, face au FC Metz, sachant qu'en plus Lille doit réagir après avoir pris 4-1 face à Valence et avoir perdu face à Marseille la semaine dernière. Je pense que face à un adversaire comme Metz, sachant qu'en plus il a été un petit peu préservé face à Bordeaux, il sera à l'heure de jeu. Contre Marseille, il est remplaçant. C'est Loïc Rémy qui est titulaire. Donc je me dis qu'il va pouvoir enchaîner et que peut-être le temps passé sur le banc, sur ces parties-là, vont lui permettre de retrouver l'allant qu'il avait au mois de septembre et même dès le début de la saison. Donc voilà, c'est le pari. C'est donc but d'Osimhen et victoire de Lille derrière pour accompagner ça. Puisque je crois que le but d'Osimhen était à 2,25 et par-dessus ça, le combiné des deux est à 2,70. Et il me paraît plutôt intéressant, sachant que lorsque Lille gagne, Osimhen marque quand même assez souvent.
Autre match en Ligue 1 pour toi, Florent, c'est celui entre Rennes et Amiens. Là, tu pars sur un pari offensif.
Oui,
Pourquoi?
je choisis l'offensive. C'est assez simple sur les dernières journées, et Christophe en avait parlé, je crois. Il y a peu de temps, et même dans son article pour Eurosport sur la Ligue 1, Amiens est quand même une équipe qui joue pas mal, qui joue bien, qui a marqué au moins un but dans ses, depuis le début de la saison. Depuis le 31 août, ils ont toujours marqué au moins un but par match, tout simplement, les Amiénois. Et en face, il y a un Stade Rennais qui a un peu de mal à avoir des résultats. Ça chauffe un petit peu pour Stéphane ces derniers temps. Mais pareil, en championnat, il reste sur un 3-2 face à Toulouse, une victoire, mais aussi une défaite 3-2 face à Monaco. Bref, ça marque des deux côtés, assez régulièrement quand même. Même si Rennes a notamment buté sur la défense de Reims, mais sinon ils ont quand même très souvent marqué cette saison. Et du coup, l'idée, c'est de partir sur un match plutôt ouvert entre ces deux équipes. Je crois que c'est dimanche 15h, vu que de toute façon Rennes joue en Ligue Europa cette semaine. Donc l'idée est de partir sur un match où les deux équipes vont marquer et où il y aura plus de 2,5 buts dans le match. Après le résultat, victoire, nul ou défaite, je ne sais pas de quel côté ça va pencher, mais je pense qu'il y aura des buts dans ce match. Donc voilà, Paris, les deux équipes vont marquer et plus de 2,5 buts, et je crois, Raphaël, que la cote est à 2,40.
C'est ça, 2,40 pour toi. Une cote un peu similaire pour Christophe en termes de valeur possible et de gains possibles, mais pas du tout sur le style de Paris, puisque tu vas sur un Nantes synthé verrouillé, Christophe.
Absolument, je vais sur un Nantes synthé verrouillé, puisque mon pari c'est moins de 1,5 buts à 2,50, ce que je trouve plutôt bien payé, à la fois vu le profil des équipes et vu leurs résultats récents. Alors on était sur initiative de Florent au match entre Bordeaux et Nantes ce dimanche. Clairement, l'équipe nantaise m'a pas fait, alors même si Koulibaly était sur le banc, m'a pas fait une impression dithyrambique. Et il faut quand même dire que sur les derniers matchs, à la fois sur le nombre de buts qui était relativement faible, mais même sur la qualité de la production offensive, c'était souvent, bon, on tente des choses, notamment via Moses Simon, ça va bien finir par passer. Généralement, ça finissait par passer en fin de match. Mais globalement, le 4-4-2 était surtout pertinent sur la phase défensive plutôt que sur la phase offensive. Donc là, Paris serait pas forcément, Paris serait pas passé parce que Bordeaux a mis deux buts. Mais sinon, si tu regardes les dernières journées, hormis la victoire, bon, ce n'est pas une journée, mais le dernier match, victoire en Coupe de la Ligue 8-0 face au PFC, c'était défaite 1-0 face à Monaco, défaite 1-0 face à Metz, victoire 1-0 face à Nice, victoire 1-0 face à Lyon et victoire 1-0 face à Rennes. Donc du coup, ce pari passe quasiment à chaque fois avec Nantes si tu le fais. Donc ça, c'est la première variable de l'équation. Et l'adversaire, Saint-Étienne, qu'on avait vu le lendemain en direct d'un bar. Enfin, moi, j'étais dos tourné à la télé, j'ai pas raté grand-chose visiblement. Saint-Étienne a réussi à rendre Monaco assez inoffensif, mais n'a de son côté pas été très emballant non plus. Alors le résultat a suivi. N'empêche que la production offensive de Saint-Etienne dépend quand même pas mal des performances de Nice Bouanga.
J'allais me charrier moi-même et tu l'as sorti.
Denis Bouanga, on a un débat interne où tu le trouves moins bon que Romain Hamouma, et nous le
Alors non,
trouvons meilleur avec Florent. Et
c'est
du
très
coup,
mal présenté. Je trouve que le pic de Romain Hamouma est bien plus élevé que le pic de Denis Bouanga.
c'était pas la question, mais
Il n'est peut-être
on
pas
peut
encore
rester sur
arrivé.
cette
Bien sûr que
valeur.
si, c'était la présentation. De toute façon, les extraits sortiront.
Mais depuis que tu as dit ça, Denis Bouanga est le détonateur offensif de Saint-Etienne. N'empêche que c'est assez pauvre en dehors de ça. Donc du coup, je pense que ça ne va pas s'emballer et qu'au mieux, ça fera 1-0 pour l'une des deux équipes, mais que l'une de ces deux-là, même menée, n'arrivera pas à se transcender offensivement. Donc voilà, moins de 1,5 buts à 2,50.
Ouais, on ne te moque pas trop de mes takes parce que le dernier gros take que j'avais fait, c'était sur Asensio et depuis sa carrière a confirmé
Rappelons-le.
son niveau. Bah, que c'est, oui, alors si on devait le résumer à comment je l'ai dit, c'est que c'était le money paquet du Real Madrid. C'est un peu dur, mais bon, en même temps,
Mais
il a le
c'était fait un
mérite.
moment où il était vu par certains comme le nouveau Messi. Donc du coup, là-dessus, on peut te... Oui, commencer à décliner un peu, mais on peut te reconnaître un certain panache.
Oui, c'était un très hot take. Peut-être qu'on refera un podcast de hot take, on pourra repartir sur des trucs un peu fous comme ça, notamment pour parler de Martin Terrier. Lazio Lecce, tu pars en Italie, Christophe, avec un des grands buteurs de la saison. Alors on aurait pu parler de Lewandowski qui a encore marqué, qui a 31 buts en 30 matchs depuis le début de la saison. Là, c'est l'autre, c'est Immobile.
Absolument, Immobile qui a marqué 13 buts cette saison. Alors il y a 4 pénaux dans le lot, du coup je vais pas dire que ça fausse les stats, mais finalement Berardi qui en a mis 7 sans pénaux pourrait potentiellement, avec le même volume, en les mettant, être à 11. Donc du coup ça accélère un petit peu son rythme. N'empêche qu'Immobile est le buteur cette saison en Italie, puisqu'il y a eu que 11 journées. Mon pari, je donne tout de suite, c'est la victoire. Non, c'est Immobile marque au moins 2 buts. C'est à 3,90. Bon, pour dans ma tête, ça s'accompagne une victoire de la Lazio, mais peu importe, la Lazio joue face à Lecce. Donc voilà, au moins doublé d'Immobile à 3,90. Alors, à la fois pour le côté, bah, il est finalement sur un rythme de plus d'un but par match. Donc, si on reste là-dessus, il en mettrait théoriquement au moins un. Lecce est l'avant-dernière défense de Serie A avec 21 buts pris en 11 matchs. Alors, c'est pas une moyenne non plus scandaleuse, hein, ça fait moins de buts encaissés par match. N'empêche que si tu mets à la fois le côté être face à une grosse attaque, la Lazio, la deuxième attaque ex aequo de Serie A devant par exemple Naples, la Roma ou la Juve, avec donc un joueur extrêmement forme, tu te dis que Immobile, qui a par exemple mis un doublé face au Torino, serait capable de trouver deux fois le chemin défilé, même si Lecce n'est pas, alors Lecce est très, enfin très mal classé, Lecce est 16e, mais c'est plus ou moins une position attendue. N'empêche que Lecce a énormément de mal à vraiment briller sur toute la durée d'un match. Ça peut être une équipe un peu chiante à jouer, qui a tenu des bonnes équipes en échec. Lecce a fait nul face à la Juve, même s'il y avait pas mal de réussite sur ce match-là, a tenu Milan en échec. Donc tu te dis, ah, Lecce, pourquoi pas, mais mine de rien, il y a aussi eu quelques déroutes, notamment une défaite 4-1 face à Naples. Et je pense que le fait d'avoir une Lazio reposée, enfin une Lazio motivée, pas reposée, mais une Lazio conquérante sur la lancée d'un match face au Celtic, où je pense que Immobile ne jouera peut-être pas, sera peut-être un peu préservé, peut faire une explosion offensive où Immobile marquerait au moins deux buts.
Merci à toi Christophe pour ce pari donc à 3,90 qui pourrait te faire ressusciter dans cette saison de pari très compliquée pour toi.
Je te trouve un petit peu dur, mais j'accepte le verdict,
Un
qui est
petit
très
peu dur,
compliqué sur un plan personnel, où j'ai perdu énormément d'argent
mais... Oui, en
sur
plus, oui, je crois. C'est à la fois difficile dans tes paris vus du banc, dans les paris que tu fais à côté, même si je suis pas trop là, je suis pas trop en position d'ouvrir ma bouche, puisque mes deux derniers paris ont été complètement ratés. C'était sur la Ligue 1 également. Tu as réussi un pari sur quatre pour l'instant cette saison. Et un autre a
sachant qu'il
été
y en a un qui est
remboursé.
neutre.
Oui, donc c'est pas scandaleux finalement, mais on est tous un peu scandaleux cette saison, donc on va pas. Je vais arrêter de fanfaronner. Merci à vous deux, messieurs, pour ce podcast nocturne. On revient bientôt avec une fac des patrons, Florent.
Oui, bah oui, on va rattraper celle qui s'est envolée, qui s'est dissoute dans l'air. On va rattraper ça.
Ses fringues étaient encore là, mais lui n'était plus présent. Et puis il y aura, alors peut-être en début de week-end, peut-être en fin de week-end, un épisode à la fois à nouveau sur Patreon, patreon.com/vudubansaga sur l'équipe de France 2004, dont il faut qu'on regarde les matchs de poule.
De premier tour, histoire ensuite d'enchaîner avec le fameux quart de finale contre la Grèce qu'on attend tous.
Voilà, donc c'est ça le programme à peu près. Il y aura le prochain podcast gratuit qui sera donc lundi.
Lundi, avec sans doute un gros débrief de Manchester City-Liverpool, puisque c'est ce week-end, c'est dimanche à 17h30, il me semble. Donc ça risque
Il me
de.
semble.
Si le match est bien, ça risque de faire peut-être un spécial, mais en tout cas une bonne partie de ce podcast. Ça va dépendre du match. Sinon ensuite ce sera il y aura peut-être il y aura le fameux état des lieux qu'on doit faire puisqu'on a pris un peu de retard là-dessus, on a un petit peu bousculé la prog parce qu'il y avait d'autres choses à évoquer avant, où on devrait revenir sur Monaco, la Real Sociedad, le Bayern avec le changement d'entraîneur, c'est
À
possible qu'il
voir.
passe à l'AS, on va voir ce qui va se passer, mais voilà, on a les deux des trois équipes, sachant que la troisième ce sera une équipe assez médiatique assez grosse. Mais on n'a pas encore arrêté laquelle ce serait pour l'instant.
Sachant qu'il y a aussi ce week-end à venir Marseille-Lyon et Bayern Dortmund.
Oui, donc ça risque lundi, gros programme.
Et puis
Préparez-vous.
pour les fans de Liga, il y a un Betis-Séville, FC-Séville pour conclure la journée. Si vous voulez un petit derby déséquilibré entre deux équipes qui promettaient beaucoup, mais une des deux est plutôt en difficulté. Voilà pour. Ah, il y a Juventus Turin AC Milan aussi dimanche soir. Mais bon, là, pareil, c'est très déséquilibré, malgré la réputation des deux équipes. Voilà pour le programme, vous en savez beaucoup plus maintenant. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Discord, Facebook, vudubon.fr, mais surtout sur Patreon, je répète patreon.com/vudubansaga pour avoir plein de contenus supplémentaires, dont un énorme débat sur la forme de Pac-Man, c'est bientôt. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Ciao!
Salut!
cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.